pas de côte. Épisode 71. Dans l'antre de la bête qui renaît de ses le contraire de cendres plein d'eau dans la cave. Paumé!
Simon Maillé!
Comment ça va?
Peut pas aller mieux, comme ouais. Me dirait un cher concierge d'une école dans laquelle j'ai travaillé.
Ah oui, il disait ça.
Oui. Comment ça va?
Peut pas aller mieux.
Peut pas aller mieux.
Ah, ben écoute, si tu peux pas aller mieux, c'est parce que ça va pas en tabarnouche.
Surtout
là.
De la part de concierge, il y a une grande leçon à tirer de ça.
Effectivement, c'est sûr que si t'es un multimillionnaire, peut pas aller mieux. À moins que t'aies une ex-femme qui te déjoute tout, ça peut fatiguer un petit peu, mettons.
Si tu frottes la salle de bain ou quelque chose.
T'as tout compris, c'est ça, différent. C'est vraiment ça le but de.
Oui.
Jay, comment ça
Salut.
Va?
Salut! Ah, ça va très bien.
Bon, parle-moi de ça.
Très heureux.
Écoute, si la vie est belle, c'est ce qui est important, ouais. Hein? La santé, la prospérité. Chris, on n'est pas à Noël, t'as un peu.
Ouais, c'est ça.
J'étais parti d'un souhait. Moi, là, ça va comme ça.
Oui.
Hey, les gars, je ferai pas d'intro à pisser de bout pendant 6h30 puis à la secouer pour être sûr de pas se salir les culottes.
Ouais.
Le show, là, ben, il commence maintenant.
Tu veux participer à l'évolution de Production Podcast? Deviens partenaire et contacte les Productions Podcast en visitant la page Facebook Productions avec un S, Podcast, P-O-D-C-A-S-S-E ou écris-nous à podcast@commercial.icloud.com. Fais partie de l'aventure Productions Podcast. Pour plus de détails, visite podcast.com.
Maillé Podcast, épisode 71, dans l'antre. Ça me manquait, les gars, de dire ça.
Ouais.
Ça faisait quelques semaines là, que je fatiguais. D'ailleurs, je vais pouvoir vous en parler un peu
oui.
Parce que j'ai décidé de consacrer mon intro à cette belle péripétie qui est ma vie depuis les 5 dernières semaines.
Oui, t'as perdu du poids. Plus.
Oui, et aussi,
ouais. Effectivement. Ouais, 120 livres, ça te fait bien.
Charrier de l'eau, ça fait travailler, effectivement.
Ouais.
Puis, j'imagine que de faire attention à soi un peu aide aussi. Donc oui, j'ai perdu quelques...
Mais veux-tu ou pas de côté, s'il te plaît, parce qu'on dirait que t'es en deux dimensions.
Oui, j'ai perdu un peu. Mais là, c'est bizarre parce que là, j'arrête pas de tomber de mon lit toutes les nuits. Avant, j'avais la bédaine qui me tenait.
Ouais.
Mais là, elle est rendue plus petite. Fait que là, whoop,
mais là, tu tombes en virevoltant comme une
barouette.
Feuille au vent. Tu sais, c'est comme...
Fait que là, ben, ça fait chier parce qu'il a fallu que j'enlève ma table de chevet.
Ouais, okay.
Parce que quand je tombais, je me pétais la face dans la table de chevet.
Aussi.
Fait que là, faut que je l'enlève. Là, puis table de chevet, ça va mal. Mon CPAP, ma lampe, ma fan, je mets ça où, moi, là?
Hey, l'autre matin...
Tu te chies en même temps aussi?
L'autre matin, je le vois au chel à peu près à 7 heures.
Là, comment va Camille?
Je sais très bien. Il y a mis salut Camille, ouais. On le salue. Puis là, mon Simon, il y a une trace ici de sa joue, là, à la joue droite. Fait que là, j'y touche avec mon doigt. Je dis, c'est-tu ton CPAP? Ça fait pas longtemps que t'es debout, mon chien.
Non, j'avais dormi pas mal.
Ouais.
Matin,
tu t'es pété à la tête sous CPAP?
Non, c'est pas si mal que ça.
OK.
Non, c'est une trace. Mettons, tu sais, comme un pli.
Une trace d'oreiller.
Genre, ouais, mais c'est son
CPAP. Strap qui attache mon CPAP dans mon visage.
Ouais,
j'en ai deux qui passent ici.
Fait que Simon, il y avait
ton
deux...
masque de Darth Vader.
C'est ça. Okay.
C'est ça.
Quand je me lève, d'habitude, je me lève assez tôt le matin. Donc, ce qui fait en sorte que rendu vers 7h,
la trace est drainée.
C'est pas mal plus là. Mais quand on s'est rencontrés ce matin à 7h, tout de même, je m'étais levé vers 6h40. Là.
Fait que non, c'est
la
ça.
Trace
tu vas au dépanneur à Ville-Marie, toi? Le
ouais,
matin?
Pourquoi?
Ben,
ouais.
C'est pas sur ton chemin, il me semble, pour aller à la gig.
Ben, ça dépend. Si tu passes par le champ, non. Là, parce que
tu passes pas par l'aéroport?
Oui, ben, des fois.
Okay,
des fois, je passe par Ville-Marie aussi.
T'as besoin du café du Shell?
Non, je prends pas de café.
Mais pourquoi d'abord?
Ben, parce que j'aime souvent le Shell.
Ouais, puis le Shell, c'est ouvert avant 7h.
Tu me juges-tu?
Le gars, il dit, pourquoi t'aimes ça? J'aime le jaune.
Ouais.
Mais à Lorrainville...
J'aime les logos en forme de coquillage.
J'aime ça dire...
T'as rien d'ouvert avant 7h à Lorrainville. Jean-Yves, il rouvre à peu près à 7h. Beco, peut-être 7h30.
Des fois, c'est ouvert le matin, effectivement. C'est
mais,
pas
avant 7h.
Non, mais c'est juste pas
le café est bon, Jean-Yves.
Les gars, c'est presque intéressant.
Non, mais c'est super.
C'est super.
Non, écoute, péripétie de ce qui s'est passé, très simple, qui a fait qu'on a 5 semaines où on n'a pas pu enregistrer le podcast. Premièrement, j'ai eu effectivement fin mars, là, début avril, une autre entrée d'eau assez proéminente dans la cave par 4 pièces. Donc, bien évidemment, ramassis de tout ça, ménage de tout ça, assurance, contracteur, question, soumission, ça marche, ça marche plus, ouais. C'est cher, c'est trop cher. Qu'est-ce qu'on fait? Discute, déprécie. Non, ça se dit pas déprécié. Tombe down, revient, ça marche moins. En tout cas, là, on fait. Ah, je suis tout fou. Ah, je sais plus.
T'avais-tu des bonnes assurances à la base?
Écoute, c'est pas une question d'assurance. Le problème est que la maison est une reprise de finances.
Oui.
Ce qui fait qu'il n'y a aucune garantie légale. Donc, c'est ça le problème. Alors, avec les assurances, malheureusement, ça n'a pas super bien marché. Mais trêve de ce passage-là. Là, il n'y a plus d'eau. Les murs dans la cave sont ouverts. Les planchers ne sont pas replacés. Et faut attendre d'avoir le final des assurances, des soumissions, des contracteurs avant de dire « OK, là, on peut partir, on peut refaire. »
Mais ici, dans l'antre, là, tu n'as pas eu d'eau, hein?
Non, pas de ce côté-ci. C'est vraiment de l'autre côté de la maison que, effectivement, l'eau est rentrée là, en bonne quantité. Mais écoute,
ça
fait partie de ça. On a une pente qui va vers la maison au lieu d'aller vers ailleurs que la maison. Ça aussi, c'est un autre problème qu'il va falloir qu'on règle. Deuxième chose qui a allongé l'entrée d'eau dans la cave, c'est que malheureusement, notre piscine creusée n'est pas réparable. C'est pas juste une question de refaire la toile dans le fond. Elle est pétée, elle a 30 ans, elle est vieille, elle a mal au dos, au rein, au cou, aux chevilles, aux genoux, partout. Puis réparer ça, ce serait trop dispendieux pour le coup de dé que tu prends parce que qu'est-ce qui va te péter d'autre dans les mains l'année d'après si tu la répares, parce que tu répares quand même une piscine plus vieille que 30 ans. Mm-hmm. C'est des fois de faire du bleu.
Oh, mais là, elle était là avant la maison.
Non, elle était là en même temps. Parce qu'avant la maison, ça serait difficile un peu. Bonjour, je vais acheter un terrain.
C'est la piscine creusée. C'est la piscine municipale de Laurentville.
C'est ça, on va mettre une piscine creusée en arrière. OK, à vous, l'intention de construire une maison?
Non, c'est rien que ça.
Je vois pas de quoi tu parles.
Mais moi, Simon, je te conseille de faire un skate park pour les ados de ta rue.
J'y ai pensé, effectivement.
Je
leur
changer 10 piastres d'achat, puis je voulais filmer 2-3 ans.
Je voulais filmer Lords of Darktown 2.
Oui, peut-être, ça aurait été bon, ça.
Mais je me suis dit probablement qu'un film d'une heure et demie dans une piscine, ça pourrait être relativement poche. Fait que j'ai dit, peut-être laisser faire le concept.
Ouais. Oui.
Parce que dans le film, eux autres, dans le 1, déjà, ils vont dans 30-35 piscines. Fait que s'ils ont fait juste la note, bof, tu sais. Ensuite de ça.
Oui, après avoir pleuré ta piscine.
Après la piscine, ben là, c'est ça. C'est tout le creusage du tour du terrain parce qu'on se rend compte que le drain, il est pas bien positionné. Il est comme un peu en serpent-échelle au lieu d'être droit. Puis là, ben, il faut tout aller changer ça aussi. Il va falloir creuser tout autour de la maison, enlever la membrane, changer la membrane, remplacer le drain, tout renchausser ça. Fait que là, ben, c'est ça. Il y a quelques travaux à faire. Rien de. Tu me vois pas en dépression présentement. Vous m'avez jasé avant le pod. Pis,
moi, en voyant la grue avec la boule de démolition dans l'avant de la maison, je vois que tu paniques pas du tout.
Non, au contraire. C'était juste pour faire peur aux voisins. Nous autres, c'est ça. Je l'ai juste
C'est parce que t'as pas vu le C4, toi, en arrière.
Ouais. Ah, OK. Il n'y a aucune panique.
La lumière rouge qui flash, là, c'est pas un détecteur de mouvement. Là, c'est ça. Fait que,
ça va sauter d'ici de 20 secondes. C'est,
avec Tom Cruise en train d'essayer de désamorcer la chose.
Oui.
Ouais, mais Tom, en ce moment, il veut pas sortir du placard.
Et Philip Seymour Hoffman qui le menace.
Oui. En comptant des cure-dents par terre.
Tout à fait. Chevauchons dans les films, s'il te plaît. Oh my God, c'était vraiment Top Gun là-dessus. OK. Bon, j'ai fait tous ces jets, ça va bien.
Ça a pris combien de temps? Ça a pas été long.
9 minutes 22.
Ça a pris un mois. Ça a pris un mois.
Oui, ça a pris 5 semaines avant de chercher.
Ouais, parce que j'ai jamais retoussé depuis l'épisode du fromage au village.
C'est ce que j'ai bien peur.
Ouais, tant mieux pour ta santé.
Là, sûrement que ma veine est ressortie dans mon front.
Ouais, là.
C'est ça.
Elle repart dans les mains.
Après ça,
ça va pas mal, elle est déjà dépeignée.
Ouais.
Donc, après le tour de la maison, la semaine passée et la fin de l'autre semaine, c'est les filles qui, malheureusement, sont rentrées dans l'épisode de la gastro-entérite à la puissance 732.
Ouch.
Donc, Léa en premier, Anne-Ève,
en deuxième, ça rentre. Ma blonde ça en troisième et moi-même le dernier.
Ouais, hein?
Selon les dires de ma femme, oui. Chouette, que je salue, qui est en haut là, présentement,
salut!
En train de s'occuper des filles. Mm-hmm. Et moi, le quatrième, violemment. Alors, ça n'a pas été long, mais le temps que ça a duré, ça a été violent.
D'où l'idée de nous faire porter des soutes de plastique comme dans E.T. Hein?
Exactement.
C'est pour ça qu'on dit ça en ce moment.
C'est pour cette idée-là aussi. Je sais que tu as trouvé ça un peu dégueulasse quand tu es rentré et que je t'ai liché le côté de la lèvre, là, mais, oui, mais c'était ça aussi.
C'est un peu inconfortable.
Juste à être sûr que tu étais vraiment, là, tu avais les anticorps pour. Là,
moi, personnellement, tant que je te vois pas vomir en G, je suis correct.
Ouais. Non, c'est ça. Je m'excuse, mais à chaque fois que je pense à vomir, je pense au film Stand By Me où les quatre petits gars autour du feu écoutent l'histoire de gros lard qui... vous avez jamais vu...
Mais oui!
T'as vu Stand By Me?
Okay.
C'est un film de quatre jeunes qui...
C'est quoi? Ça me dit quelque chose.
Ça n'était pas.
C'est vieux, là. C'est un film de 1980...
80-quelques, ouais.
2, 3, 4, 5, quelque chose comme ça.
Ouais.
C'est quatre jeunes qui s'en vont à la recherche d'un corps, un gars de leur village, un peu plus vieux, 20 ans.
Puis tombe dessus, me semble.
Et décédé sur le bord d'une traque de chemin de fer à, mettons, on va dire, je sais pas, mettons, 7 km. Eux autres, ils vont à pied.
Mettons, dis-tu à Vidoune?
Ouais, genre.
OK.
Eux autres, ils vont à pied. C'est comme si ça allait sur le chemin de la traque, mettons, à pied. Puis bon. Après 7-8 km, ils couchent en chemin, puis là, il se passe plein d'affaires.
Ah ouais,
le premier
relative.
Soir où ils couchent, ils font un feu. Okay. Puis il y en a un dans la gang qui est vraiment. Il a bien, bien de l'imagination. Puis il leur conte une histoire.
Okay. Okay.
Puis l'histoire, c'est un gros lard, un jeune de leur âge, qui est un gros, puis qui font un concours de tarte avec 3-4 adultes, puis lui. Puis lui, parce que tout le monde n'arrête pas de l'écœurer, puis l'appelle gros lard, il a décidé avant le concours de se bouffer un œuf ou deux, puis de boire de l'huile de foie de morue.
Oh, ouais, c'est dégueulasse.
Genre une bouteille au complet.
C'est ça, quoi.
Pour être sûr qu'il régurgite le concours de tarte.
Ouais.
Il fait le concours de tarte, il gagne vraiment solide parce qu'il mange toutes les tartes, parce que c'est un gros lard, il n'arrête pas de bouffer comme
et
un cochon.
Et suite à cela.
Et à la fin, s'ensuit, bien évidemment, dans 1985, fait que je te rappelle que point de vue effets spéciaux, bof, tu sais, fait que tout le monde est de côté.
C'est l'époque.
S'ensuit la pire scène
de
tout le monde se plume l'un l'autre dans
bat,
le...
Hey, ça me dit quelque chose.
Ça bat le manège en petit monstre.
Oui, dans le petit monstre où tout le monde se
plume.
Ça bat cette scène.
Ça, c'est bon et tout.
Ça, c'était très bon.
Ou comme dans le film de Peur 2, tu sais, au début.
Ça bat tout ça. La scène de Stand By Me, c'est la première
c'est incroyable,
qui est arrivée, ça.
J'écoute ça à soi.
C'était vraiment...
Ça, c'est sûr qu'on trouve ça.
Ah oui, ça, tu t'en vas sur hds.to. Tu as tous les films en français que tu veux de la vie.
Sérieux, toi?
Oui.
Ben, mets ça sur la page Facebook de Maillé Podcast.
Faudrait que j'essaie
de trouver. On va encourager les gens à pirater leurs films.
Non, je veux dire la séquence.
Je parle de films dans
la séquence. Fait que,
régurgitation.
Disons qu'on a eu une bonne période de gastro. Là,
mais toi, c'était-tu genre one way ou c'était fluide dans les deux sens sur la 15 Nord?
C'était à voile et à vapeur. Le tunnel Hippolyte de la Fontaine était complètement débloqué des deux côtés.
Okay.
Voilà, ça a sorti.
Sans feu rouge.
C'était plus wrong way.
Orient Express, là, c'est ça. C'était Midnight Express, mettons.
Oui.
Fait que, écoute, à cause de ça a scrappé le fait de dire... Oui, tout à fait. C'est une belle déco de Lysol et de Gevex.
Oui.
C'est des matières vraiment cool.
Ah, pas vu.
Fait que, non, mais là, ça a arrêté de sentir parce qu'à un moment donné, on peut laver à tous les hauts. Là, on aimerait ça que les gens nous comprennent dans la maladie. Fait que là, ben, avec le temps, on a comme guéri un peu. Puis, c'est comme moins pire.
Ben, tant mieux, parce que je t'ai serré la main tantôt. J'ai une grosse semaine, fait que s'il te plaît, je veux
pas. On se posait des questions tout le temps sur Messenger. Quand est-ce que?
C'est surtout moins fatigant, là, tu sais.
Non,
les gars, moi, je pense que je vais vous lâcher pour partir tout seul.
J'étais le premier à dire, Colin, j'ai assez hâte de. Puis là, ben, je pouvais pas.
Parce justement, ta blonde textait la mienne pour dire « Écoute, Simon, en ce moment, il est en boule fétale dans le fond de la cave, dans l'âme de la bête, en train de regarder des photos de paumé et de jeu. »
Puis il pleure.
Puis il pleure.
Puis il fait 28 de température.
Et comment il disait ça, Simon Gouache, dans son sketch? Il dit « As-tu déjà vu un gars pleurer et vomir en même temps? » Il dit « C'est assez ordinaire, merci. » Puis en broyant, regarde.
C'est assez ordinaire.
J'aime la manière qu'il dit.
Oui,
c'est mieux phrasé qu'on
mais
c'est
vraiment d'accord, bon. Je suis d'accord.
Effectivement. Fait que, écoute, en gros, les péripéties, c'est ça. Il s'est pas passé
quelque chose de... aujourd'hui.
Ce qui nous amène à cette semaine,
today,
on a guéri. Et là, ça va un peu mieux, effectivement. Donc,
Kiri, tu sais, c'est deux mots joyeux, ça.
Oui, ouais. Kiri. Kiri, comme la toune de Mr. Mister. Kiri. Oui. Mais non, en fait, moi, je voulais terminer. C'est oui. Jeu de mots plat de marde, gars. Force-toi pas pour rire, oui. C'est de la marde.
Non, j'ai pas rire.
Je ne mettrai pas Kiri de Mr. Mister parce que c'est une toune que j'aime beaucoup, mais,
s'il te plaît.
Mais je la mettrai pas. J'avais déjà pensé à quelque chose, justement, parce qu'on ne voulait plus avoir de pluie.
Oui.
Dans la maison, d'eau dans la maison.
Oui.
Puis là, on s'est dit, quand on a vu, après qu'on ait réussi à tout éponger, l'eau, puis que ce soit sec, puis les grosses fans commerciales fassent leur job. On a vu à un moment donné une annonce, là, genre on est mettons, on va dire mardi ou mercredi, puis là, on avait une annonce que vendredi, samedi, là, comme 20 à 25 mm de pluie.
Ça n'a
pas tombé.
Oui. Non.
Mais ils ont calé que ça allait être un déluge dans la fin de semaine. Là, j'ai fait comme, ah man, regarde, on vient de finir. Là. Viens pas me foutre un pied d'eau de plus, s'il vous plaît, dans la cave.
Un pied.
Et c'est pas arrivé. Parce que je suis sûr, le vendredi soir, j'étais ici dans l'antre en train de me conscientiser à rester positif dans toute cette merde-là qui est
le début de la chanson.
Oui, oui, ouais. C'est vraiment mon sport. Okay. Et j'ai écouté une chanson qui, je suis sûr, a fait la différence. C'est une excellente chanson qui va sûrement vous rappeler des souvenirs. Voici No Rain de Blind Melon.
Oh yes.
Oh, MLB.
Chaque semaine, joignez-vous à Jeff Drouin et son équipe pour en savoir plus que tout le monde sur le baseball professionnel. Nouvelles, analyses, débats enflammés et même potins croustillants. Disponible en podcast sur iTunes, tout bon podcatcher Android et sur les ondes de sportradio.ca les vendredis midi. Visitez le passionmlb.com pour plus de contenu.
Une présentation, productionpodcast.com.
Passion MLB.
Ouais, maillet pas de côte, épisode 71. Dans l'antre de la bête qui, ma foi, a le groove ce soir. Paumé! Non, mais tu parles d'une intro de Wolfpack.
Incroyable.
À la puissance 2000. J'adore ce band-là. D'ailleurs, les petits extraits qui sont sortis sur le net dernièrement me prouvent que il n'y a pas juste le bassman qui torche,
non,
ni encore
ça,
le gars de la guite, les gars de la guite. Mais le batteur, ouais, avec juste, là, permets-moi de douter des termes que je vais employer de drum, parce que tu vois comme moi que j'ai coulé mon cours de musique quand j'étais jeune, puis j'ai juste réussi à faire jouer de la musique dans les mariages. Avec un snare, un hi-hat, puis...
un bass drum.
Un bass drum. Trois parties du drum que n'importe qui verrait ce drum-là, qui connaît pas le drum, ferait « OK, c'est fuck all qu'il n'y a pas de drum ». N'importe qui connaît un peu la musique ferait comme « Ben, s'il y a du talent, ça prend juste ça pour faire de quoi de bon ». Et l'extrait qu'on a entendu, que toi et moi on a partagé, là, c'est vraiment...
C'était assez incroyable, mon cher Simon.
Le gars, écoute, ça a du talent, puis c'est un band que j'aime beaucoup. Hey, mon cher Paumé, trêve de parlons de ton intro et plutôt de ces cinq semaines qui t'ont sûrement permis de germer plusieurs bonnes graines et en venir à des idées fabuleuses. Qui sont les top 5 de Paumé?
Plusieurs bonnes graines.
Tout à fait.
Les graines ont germé et là, ça forme des idées.
Ouais.
Ça pénètre les idées.
Écoute,
donc,
vas-y, fais sortir ton...
Fais rejaillir.
Fais jaillir ta joie. Gésère-nous de ton information.
Avec plaisir, Simon J. Salut les boys.
Ça, écoute.
Regardez, j'avoue avoir un top 5, entre autres, déjà de mis en place ou de créer, mais qui ne sera pas à cet épisode-ci que je prévois faire le prochain épisode. Donc, ça m'a permis quand même de prendre un certain break.
Tu sais, on jase, il en reste plein d'épisodes. Hein? Fait que,
c'est ça.
Tu décides quand est-ce que tu le fais. Là. Merci, bonsoir.
C'est un top 5 découvertes musicales qu'on va faire à l'épisode 72. Pour l'instant, j'y vais avec, un peu comme à toutes les fois qu'on a eu un retour dernièrement, le retour après l'été, le retour après le temps des fêtes. J'ai toujours... faites la critique de l'album.
Oui, c'est vrai.
C'est mon nouveau penchant dans les top 5 de faire des critiques d'albums. Donc, j'en ai quelques-uns à vous faire connaître, dont on a eu l'été passé, les Queens of the Stone Age, ensuite Galaxy.
Oui.
Et maintenant, aujourd'hui, top 5 critiques d'albums, on s'en va du côté des Arctic Monkeys.
Ah, je pensais que c'était le nouveau de Jérémy.
Je
m'attendais vraiment à ce que tu
Jérémy,
commences
ce serait
avec...
plus un cimetière décédé que je
Ah, c'était bon, non, ça. Surtout avec Lara Fabian. Il me semble qu'il fessait plus.
Lara Fabian a mangé une bonne.
Elle, en tout cas, il me semble qu'elle s'est faite tuer de façon de parler plusieurs fois par notre cher Claude Rajotte.
Claude Rajotte, oui, ça a brossé. Hey, Claude Rajotte, ça serait bon s'il faisait un podcast.
Claude, s'il faisait un podcast de musique.
Hey, c'est vrai.
Juste un cimetière, ça pourrait s'appeler tout simplement le cimetière décédé ou quelque chose comme ça. Là, ça serait vraiment trop débile de l'entendre encore une fois bâcher sur des... Là, ça pourrait être...
Hey, ça serait fou, ça.
Ça serait peut-être pas le cimetière décédé, ça serait le cimetière de Toon qui prennent un extrait, pas un album complet, mais un extrait de...
Cimetière des points flaques.
Oui, exactement.
Des points flaques.
Oh my God.
Oui, donc aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler d'un album qui est sorti au début du mois de mai, le 13 mai plus précisément. Le 11 mai, désolé. Plus précisément, c'est l'album Tranquility Base Hotel and Casino de Arctic Monkeys.
OK, c'est ça que tu avais dit tout à l'heure au début, là.
Ah,
qu'on n'avait pas compris. Là,
c'est
que...
ça.
Je pensais que tu parlais du Celt.
Oui, un peu. Ça peut arriver.
C'est les vieilles langues.
Oui,
des
Vikings, le Celtique, là, oui.
Ben, ça ferait un certain sens. Les Arctic Monkeys viennent du Royaume-Uni, donc ça raison. C'est le sixième album du groupe qui existe depuis 2003. On s'entend là, que c'est des gars qui sont début de trentaine, fait qu'ils ont commencé très, 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 très jeunes.
Oui, ils sont pas vieux, là, eux autres.
C'est qui, ça, les Arctic Monkeys? Oui, ils ont commencé à peu près à 16 ans environ. Les Arctic Monkeys, c'est un groupe britannique qui fut extrêmement populaire sur MySpace avant même leur premier album.
Ben, MySpace.
Donc, eux autres, quand ils ont sorti un premier album, là, ça faisait déjà un bout qui était connu, puis c'est tombé numéro un tout de suite.
C'est comme s'il y avait été au Québec, qui avait fait leur boss aux deux Pierrot pendant 3-4 ans avant de jaillir.
Genre, ou mettons, je sais pas, moi, n'importe quelle band là, qu'on peut connaître aujourd'hui, puis qui. Je sais pas, moi, si Bernard Adamus avait.
Comment tu dis? Je dis respectable.
J'ai aimé son.
Ok, non, le Simon, non, là, ouais. Ça va faire. Là,
ils ont une carrière quand même.
Je vais arrêter de parler.
Des shows.
C'est comme si Bernard Adamus, mettons, a roulé sur Internet pendant un bon bout avant de le bas. Ouais. Donc,
t'as-tu. Je veux pas te poser une colle, mais parce que je me le suis demandé depuis que t'en parles. Arctic Monkeys, y a-tu une signification au nom du band?
Pas vraiment. Puis aux dernières nouvelles, Alex Turner, le leader du groupe, a déjà mentionné que c'était horrible comme nom de band.
Ouais, parce que moi, je veux juste un chimpanzé avec un canuc.
Oui, c'est ça. Je pense que c'est un... Ouais. Parce que c'est des gars qui ont commencé adolescents, puis qui sont rendus maintenant des hommes, des adultes, puis qui regardent un peu leurs choix qu'ils ont fait. Même les chansons des premiers albums, ils jouent moins en show, ils se sentent moins interpellés par eux autres. Parce que
c'est
des ados.
J'adore ce nom-là.
C'est créatif. En même temps, on dirait que ça va dans le même sens des lyrics là, de Turner. On comprend pas tout le temps. On sait que ça parle d'amour, mais c'est pas mal tout. Hein? Donc, c'est un groupe originaire de Sheffield, au South Rockshire, en Angleterre. Il est formé en 2002, plus précisément. Là, je disais 2003, mais c'est 2002, à High Green, une banlieue de Sheffield. Le groupe est composé de Alex Turner, qui fait le chant, guitare rythmique, guitare et maintenant piano aussi sur le dernier album. Jamie Cook, qui fait entre autres tout ce qui est guitare solo, guitare rythmique. Ben, autant que Alex Turner, les deux s'échangent ça. Nick O'Malley, qui est arrivé un petit peu plus tard dans l'aventure, qui fait des basses et fait des chants en chœur. Et Matt Helder, qui est un excellent drummer. De ce band-là qui fait les chœurs aussi. Souvent, quand on entend les voix plus aiguës dans le groupe Arctic Monkeys, c'est Matt Helder derrière son drum qui fait ça.
Oh! Fait que chacun ont quelques cordes à leur arc.
Tout à fait. Non, c'est des très, très bons musiciens malgré leur jeune âge. Pas Nick O'Malley, mais un ancien membre du groupe, Andy Nicholson, qui était justement à la basse, il a quitté la formation pour laisser la place à Nick O'Malley en 2006. Donc, tout de suite après la sortie du premier album. Fait que ce gars-là, il est sur le premier album, mais il est parti par la suite.
OK. Un peu comme le drummer de Nirvana après...
Chad Manning. Là, un peu dans le même style que Chad Manning. Qui est parti après Bleach. Puis il y avait même un guitariste, je me rappelle plus le nom, puis là je m'en vais.
Ben, le guitariste, il a joué sur l'album Unplugged, il est
c'est pas Pat Smear.
C'est pas lui? Okay.
C'était pas Pat Smear.
Je pensais que c'était lui.
Non, c'était un autre guitariste.
Ouais, puis qui a été après ça avec les Foo Fighters.
Ouais, c'est ça.
Plugger son nom, Dave Grohl.
Dave Grohl, Pat Smear, oui, qui a continué, qui était là à partir justement de l'album In Utero.
Ça m'avait marqué ça, qu'il jouait sur son petit trépied, mais genre en bas, gris. Tu sais, il n'y avait pas de souliers, juste comme des vieux bas gris.
C'était ça le grunge.
Oui, c'était le grunge. Que ça n'arrive pas là habillé propre.
On fait tous des
pas.
Choix, moi.
Là, aujourd'hui,
il dit on fait tous des choix. Arrête de juger.
Moi, je juge pas, Simon.
Ouais.
Gros cave.
Puis après mes.
Non, t'es un petit cave, ça.
Tu sais, quand on parle d'Arctic Monkeys, on parle vraiment d'une figure assez présente dans le indie rock, dans le monde du indie rock. Indie, où ce qu'on entend souvent, ces guitares-là un peu plus. Je dirais un peu plus aigu, un peu plus interstellaire au travers d'un rip qui peut ressembler à du punk au travers.
Mm-hmm.
Donc, c'est très, très intéressant. Ils ont sorti 6 albums studio. Whatever People Say I Am, That's What I'm Not en 2006. Favorite Worst Nightmare en 2007. Humbug, produit par Josh Homme de Queens of the Stone Age en 2009. Suck It and See en 2011. AM ou Arctic Monkeys en 2013, qui est probablement le plus grand succès du groupe. Et Tranquility Base Hotel and Casino en 2018. Les trois derniers albums, dans le fond, ils ont fait avec, si je me rappelle bien, je vais le sortir son nom plus tard, un James quelconque. Donc,
Van Rimsdijk.
Oui, James Van Rimsdijk, oui, tout à fait.
Oui. Ta gueule.
Et donc, c'est leur premier album, dans le fond. Le premier album s'est vendu très, très rapidement. Mais là, quand j'ai fait ma critique, c'était pas sorti encore. Mais c'est l'album qui est monté le plus rapidement numéro 1 en vente en vinyle depuis un album de Liam Gallagher, le leader du groupe Oasis.
Attends.
De plus, l'album qui vient de sortir depuis une semaine a monté plus vite numéro 1 que n'importe quel autre album de ce groupe-là.
Quand même?
C'est quand même. Le monde l'attendait.
Ils sont toujours sur la pente ascendante et non pas descendante. Ça va bien.
Tout à fait. Le groupe a remporté entre autres 7 Brit Awards, remportant le prix du meilleur groupe britannique et le meilleur album britannique 3 fois et a été nommé 3 fois Grammy Award.
Ils ont la même année, ça?
Au courant de leur carrière. C'est 3 albums à un an.
Il y a 3 prix du meilleur groupe à soir.
Ils ont gagné aussi le Mercury Prize en 2006 pour leur premier album, en plus de recevoir des candidatures en 2007 et 2013. Aucune idée c'est quoi le Mercury Prize. C'était juste pour plugger ça.
C'est pour imiter Freddie Mercury.
Ça doit être ça. Le groupe est en tête d'affiche aussi du grand festival de Glastonbury à 2 reprises en 2007 et 2013, qui est un gros festival au Royaume-Uni. Donc, je m'en vais tout droit dans l'album Tranquility Base Hotel and Casino. Donc, pas comme ce qui est MC and AM, les deux derniers albums, c'est James Ford.
Eux autres, des albums, l'album Cry, tu sais, ouais, c'est simple. Un mot, trois lettres. Non, hein, faut que ce soit long. Là.
C'est James Ford, que je cherchais tantôt son nom. James Ford et Turner, Alex Turner, qui produit l'album. A priori, la première coupe de cet album me laissait un peu sur mon appétit. J'aurais cru à une suite de l'excellent album Arctic Monkeys ou éponyme, avec le gros riff de guitare qui était mis à l'avant-plan. Toutefois, je vois des similitudes plus avec l'album Suck It and See dans le bout un petit peu plus mollo de l'album, puis un petit peu dans la partie de Humbug.
OK.
Pour les fans, là, les autres, ça vous dit rien probablement. Pour ceux qui connaissent le band.
Pour les autres, de toute façon, tu peux pas partir, la voix c'est fini.
Fait que c'est des points de repère. Parce que l'album est très. L'album est très, très mollo. Puis Arctic Monkeys, on est quand même habitué à des segments ou des côtés d'album, on pourrait dire, A ou B, étant plus mollo, plus des ballades, mais c'est un peu plus soft. Après quelques écoutes, j'ai pu comprendre un peu le processus d'écriture au travers de ça. Je dirais même que ça ressemble plus à un album solo d'Alex Turner qu'un album des singes de l'Arctique, ou à ce qu'il a produit entre autres avec son autre band, son side project, le Last Shadow Puppets. C'est plus mature au niveau des textes, puis au niveau du groove, on s'y perd pas vraiment. On a encore la bass encore présente, le drum encore présent, mais en avant-plan, on a beaucoup, beaucoup de claviers synthétiseurs. Ça demeure quand même un peu sexy au travers de ça parce que Arctic Monkeys ont un petit côté un peu sexy. Là. Les filles capotent sur ce groupe-là, sur les prestations live de qu'est-ce qu'ils ont de l'air.
Même eux autres s'habillent-tu comme ACDC avec des jeans trop tight?
Non, là, mais ils changent souvent de look. Puis le dernier, je voulais en parler un peu. Là, le dernier look de.
Tu le vois à banane sur le côté de la cuisse.
c'est il y avait un look très, très rockabilly, Alex Turner, en 2013. Puis là, maintenant, il a l'air de vendeur de coke des années 80.
Mais ouais, hein, on dirait le cousin de Pablo Escobar,
c'est
mon gars.
Tout à fait.
Même moi, il m'aurait.
Ben oui, c'est ça. Oui. Puis il est sexy pour vrai, notre beau Alex sur stage. Il n'a pas peur de.
Vendeur de coke des années 80.
Un coup d'ange, hey, man, n'entend pas l'autre.
On dirait que c'est un des personnages de Narcos ou quelque chose, oui, d'un sicario.
Par moment, on entend une petite couche de hip-hop, un peu de sampling au travers de ça. On se croyait une trame sonore de la série Stranger Things par moment. Il y a de quoi de très 80s, 70s, 80s, même 60s un peu. Il fait souvent référence à l'année 1984 au travers de ses combos des six albums. On l'entend encore. Il y a quand même de quoi, je pense, Alex Turner d'attacher à cette époque-là. Pendant d'autres moments, on croit entendre les Beatles. C'est assez impressionnant.
Okay.
Il y a une toune, si tu dis Colin, ça rendrait un cover des Beatles. Je vais vous la faire écouter un peu plus tard. Le fait que, dans le fond, que Turner a tout composé les maquettes de ses chansons au piano au lieu de la guitare explique vraiment le nouveau son d'Arctic Monkeys. Ça faisait 20 ans qu'il n'avait pas joué de piano. C'est le genre de gars, il avait commencé, étant jeune, à jouer beaucoup, beaucoup de piano. Puis là, il a dit...
Comme moi, avec la guimbarde.
Il a hissé sa prof de piano, puis là, ben, il a lâché tout ça.
Mais ce qu'il a dit, c'est que la star avec une guitare, j'ai plus l'inspiration que j'avais jadis pour composer au même niveau.
Ah,
donc, il a décidé d'aller au clavier. Puis sérieusement, le résultat est intéressant. Je m'attendais pas à ça. Ils ont pris un peu tout le monde par surprise. Les textes sont influencés aussi par la façon dont Leonard Cohen voyait l'écriture de chansons. Leonard Cohen, c'est pas n'importe qui, là. Donc,
c'était
pas n'importe qui. Beaucoup, beaucoup de métaphores, beaucoup, beaucoup de, Des fois, on a de la misère. On s'y perd un peu. Là. Il y a un titre d'une chanson, c'est le Bad Phone, mais ça n'a pas rapport au Bad Phone tant que ça.
Non, il y a juste un téléphone rouge qui flash.
Il y a juste une phrase qui a un peu rapport. Donc, je commencerai par un petit extrait de la première chanson, Star Treatment, puis je pourrais vous en parler un petit peu après.
Ouais.
Donc, on a entendu Star Treatment, qui est la première chanson de l'album, je dirais. Ben pas je dirais.
Si je me fie quand j'ai fait play, puis c'était marqué 1 sur le Ghetto Blaster.
Selon ce que je vois, c'est totalement ça.
Qu'est-ce que tu veux dire parce que t'entends?
Ghetto Blaster.
On la laisse en background. Hein?
Ah oui, elle joue, okay, elle joue. Parfait. Oui.
On dirait une tune de R&B des années 70. Je sais pas si t'es d'accord avec moi.
Genre, ça sonne Ray Charles un peu.
Un peu, hein, digne de cette époque, vraiment. Là, James Brown, un peu plus mollo.
Moi, je trouve qu'il ressemble au début de la toune, on dirait l'intro de La Sorcière Bien-Aimée.
Ouais, il y a un petit quelque chose, là, vraiment synthétiseur de cette époque-là. Le ton, hein, le grain. Le reverb dans la voix de Turner apporte un écho, un tout un peu intéressant. D'habitude, il chante un petit peu plus clair. Je trouve que ça initie bien la tournure de l'album. Le ton me rappelle un peu ce qu'on avait entendu sur Pied Driver Waltz ou une autre ballade du groupe. Les synthés sont très présents dans la production, ainsi que certaines percussions supplémentaires au travail de Elders. Ils sont rendus un plus gros band. À la place d'être quatre, ils ont invité trois musiciens de plus. Un gars aux percussions, un gars de clavier de plus qui peut faire la guitare, puis un autre gars de clavier de plus. Fait qu'il en manque pas. Puis c'est tous des vieux setups vintage, là, qui ont des vieilles guitares, des vieilles boîtes de synthés.
Tout est brun.
Brun pis beige, là.
Ils ont du tapis sur leur guitare.
Excusez. Donc, pour la première chanson, c'est un peu là-dedans qu'on s'en va. Puis, les trois premières chansons, j'en ferai pas d'autres extraits parce que ça ressemble beaucoup, je trouve. C'est que les trois premières chansons pourraient être une chanson, à mon avis. Ben, pas une chanson, mais ça pourrait être un sens.
Okay.
La deuxième s'appelle One Point Perspective. On n'est pas très loin du son R&B que je vous ai parlé tout à l'heure, mais moi, un petit peu moins filtré les 70s. Il y a des touches un petit peu plus futuristes dans cette chanson-là,
okay. Mais
c'est vraiment dans la même veine que la précédente. Ça reste très, très cochon comme interprétation. Là, ce que vous voyez, là, oui, même veine. Vous attendez un peu de la façon que chante Alex Turner. Tu mets ce CD-là à un souper avec une fille d'une date, puis ça un excellent
ça
background.
C'est de valeur que les beaux-parents essayent là.
Ouais, c'est ça. Ça fait un peu lounge aussi. Puis, tu sais, à la fin, on a quand même un solo de guide digne de ce nom qui remplit bien entre le refrain puis le couplet. Turner a une plume très, 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 très artistique. Il joue très bien avec les mots dans One Point Perspective. Après ça, il y a American Sports, qui est un enchaînement très rapide. Tu comprends pas trop pourquoi il parle d'American Sports. On dirait que les musiciens n'ont pas arrêté de jouer depuis la première chanson aussi. Ça ressemble beaucoup. Le mood est similaire, mais le beat est une petite affaire plus hip-hop. Fait qu'il y a du petit sampling au travers qu'on va entendre, des petits sons là, qui vont être répétitifs. Un sampling, vous savez un peu c'est quoi? C'est souvent les sons que le gars, vous voyez, le DJ met son doigt dessus, là, puis c'est un son qui reste soit en loop ou quelque chose comme ça. Il y a beaucoup, beaucoup de claviers. Il y a une percussion très jazzée par contre comparée aux autres. Puis Jimmy Cook remplit quand même bien en faisant sonner sa guitare au travers de tout le mélange. Puis pour les amateurs de guitare, c'est facile de percevoir qu'est-ce que Jimmy Cook joue puis qu'est-ce que Turner joue, parce que Turner va jouer dans un son peut-être un peu plus je dirais moins filtré, un son un peu plus clean, à dry qu'on pourrait dire, même jusqu'à un certain point, un petit peu d'effet. Puis là, on est avec une petite disto à la George Harrison, fin 68-69 des Beatles. Là. Fait qu'ils vont travailler un peu au travers de ça. J'entends même un petit peu de Mike Oldfield dans son Tubular Bells. Là. C'est une drôle de comparaison, mais le petit sampling donne cette impression-là que je retourne un peu dans le sampling de Mike Oldfield.
OK.
Fait qu'on va aller vers un autre extrait qui est la chanson titre de l'album. Et je passe ça dès maintenant. Thank you. bass est là. Hein?
Ah, c'est puissant, ça.
C'est quelque chose de plus rare, ces albums d'Arctic Monkeys, mais depuis deux albums, la bass a vraiment augmenté. Puis je pense qu'elle ajoute à la qualité du produit. La production aussi, c'est vraiment, vraiment écœurant.
C'est sûr, tu le dis depuis tout à l'heure, tu sais, façon de parler, côté lounge, côté sexe, côté, ça prend de la bass. Si t'as pas de bass, t'enlèves le côté...
Il n'y a rien de cochon là-dedans.
C'est ça. Ça marche pas là, juste de la grosse git là, sec ou bien aiguë. Là, tu penses pas cochon tant que ça, moi, quand j'entends...
Non, non.
Shook me all night long, là, tout ça, ça. Il en manque un peu.
Plus le goût de danse, je pense.
Ouais. C'est ça.
Le drum, je trouve qu'il est très Ringo au départ. Il y a un peu de... C'est un peu n'importe quoi, mais en même temps, ça se tient. Les synthés, ben, ils poursuivent dans la même ambiance. Hein? Fait que ça fait cool quand même, on parle de ça.
J'ai aimé le très Ringo. Moi, je vois juste une tête qui branle chaque côté qui a un smile. C'est ça que...
Le tout commence sur les lyrics à la Turner. Tu sais, Jesus in the day spa, comme un spa, là, comme on peut prendre. Filling out the information form. Mama's got her hair done. Just popping out to sing a protest song. Il parle à peu près de 28 sujets en 4 phrases. Moi, dire, comme j'ai dit tantôt, j'adore la ligne de bass sur cette chanson. Il y a un côté très 80s ou tout à travers ça. C'est encore très mollo. Les synthés font quand même toute une job, je trouve. Puis c'est un Alex Turner beaucoup plus mature, je trouve, qui interprète ses chansons. Il a l'air du gars de 30 ans. Là. Il sonne plus comme le petit jeuneau. Parce que jusqu'à dernièrement, même s'il avait 28, 29 ans, il avait l'air d'un gars de 20 ans.
Puis je te dirais, enlève le grain de la voix avec le synthé, là, ça sonne The Doors un petit peu. Hein?
Il y a un petit côté de Doors avec le synthé en arrière.
Ouais, il y a un petit quelque chose là, qui est un petit revenez-y.
Oui, quand même intéressant. Par la suite, on s'en va vers la chanson Golden Trunks. On n'ira pas vraiment dans l'extrait. L'extrait, ça va être l'autre chanson par la suite. Là, le fuzz, il embarque. Même un peu à l'époque de David Gilmour à Atom Earth Mother, on reste un peu dans la même ambiance. Une espèce de fuzz là, psychédélique 70 à peu près. Les riffs de guitare demeurent très, très intéressants, tout comme les chants en chœur qui ressemblent beaucoup à du Beatles de l'époque Abbey Road. Il y a un mélange de 60s, de 80s, de choses du futur un peu au travers de ça. Comme vous l'entendez un peu dans le background, tous les petits sons aigus. Ouais. Là. Il y a une petite affaire un peu futuriste.
Électronique,
là.
Genre.
Électronique au travers de ça. Radiohead, peut-être même un peu.
C'est
exactement ça.
Ouais,
on vraiment. Le trouve un peu tout dans Golden Trunks. Et puis, c'est une chanson qui parle un peu de l'état mental de Turner puis d'une façon très poétique. Et là, je m'enligne vers une chanson que je crois qui va être un grand succès du band, qui est le premier extrait, Four Out of Five. Four Out of Five. Advertising imaginative ways. Start your free trial today. Come on in the water's lovely look. You could meet someone you like. You're in the meat of your strike. It is that easy. Lunar surface on a Saturday night. Dressed up in silver and white. With colored old gray whistle test lights. Take easy for a little while. Come and stay with us. Sérieusement, ouais. Ça, je trouve ça très, très bon.
Un très bon groove dans cette chanson-là. Vraiment, ouais. Là, tu vois tout de suite que c'est des gars de talent parce qu'il n'y a rien qui fausse. Là. C'est très bon.
Tout est là. Puis c'est, tu sais, je l'ai vu live à Jimmy Kimmel, là, il l'a fait. Là. Puis, tu sais, c'est de le voir derrière son synthétiseur au travers tout le mood qu'il va chercher, le côté vintage. Puis écoute la guitare, là. Ce que je parlais. On l'entend un petit peu, ouais. Le sampling, là. Sérieusement, j'adore ça. Cette partie-là, le petit sampling un peu hip-hop au travers. Les paroles sont excellentes. C'est toujours mollo, mais intéressant quand même. Je pense que les mordus genre de la première heure vont être un petit peu déçus, mais en même temps, le processus, je pense, mène à ça. Puis ça fait. Je trouve qu'ils ont l'air plus matures, sérieusement, dans leur. C'est correct qu'un band peut y aller plus mollo dans. C'est pas obligé toujours d'être rythmé.
Faut que tu changes d'envie parce que si tu sors 12 albums pareils.
T'es un paradis de toi-même un peu quand tu fais ça. Puis des chants en chœur un peu à la Beatles et tout. Turner est derrière son piano, comme j'ai dit tantôt. Puis il y a pas moins de 3 synthés juste sur cette chanson-là. Moi, je trouve ça écœurant d'aller rechercher un peu cet instrument-là oublié dans les années 80. Puis on le ramène. puis on en met, là. Il y a un gars qui fait sa petite Hammond B3, puis il y en a un autre qui fait un piano peut-être un peu plus clean de ce qu'on t'a pu entendre. Puis au travers de tout ça, on a tout ça été, là. Donc, 5 out of 5, je pense que je pourrais vous mettre entre autres le vidéoclip qui est intéressant. Je vais vous mettre ça sur la page de Maillé Podcode. Ensuite, ça nous amène vers The World's First Ever Monster Truck Flip. Je répète, The World's First Ever Monster Truck Flip. Le premier flip d'un monstre.
D'un truck, d'un monster truck.
D'un monster truck. En tout cas. Même à essayer de le traduire, je me perds juste à essayer de mettre ça dans le bon ordre.
Ça fesse.
C'est un morceau qui contient un peu les mêmes ingrédients que les tunes qui précèdent. Du clavier au départ, chanson en cœur, le chant en cœur, chanson un peu d'amour. Faudrait pas trop se fier au... Dans le fond, c'est pas trop se fier au titre. Lui, ce qu'il disait, entre autres, dans son analyse Turner là-dessus, c'est que il comparait sa situation comme si c'était le premier, justement, flip de Monster Truck à vie.
OK. Ah, tu l'as eu, là?
Oui, j'ai très le temps de le remettre dans ma tête. Donc, ça nous amène un peu vers science-fiction. Puis science-fiction, j'ai le goût de la mettre. Fait qu'on s'enligne là-dessus. Puis on écoute ça. Religious iconography, giving you the creeps. Feel the Madame Disco Lizard. Tongue along your cheek, the rise of the machine. C'est la chanson que je trouvais qui pouvait se retrouver le plus facilement sur Stranger Things pour les amoureux
c'est
de
vrai,
cette série-là.
Oui, oui, oui.
Le petit ouais, warn, le petit ouais. Sampling en dernier. C'est un mot d'un petit peu plus spooky, comme on pourrait dire, ouais. Tu sais, épeurant. C'est le deuxième morceau le plus intéressant, à mon avis, qui est dans l'écoute de l'album, là, ce qu'on est rendu. Le travail d'Elder à la batterie est vraiment solide, là, sérieusement. Là. Le drum, il est tout comme saccadé, mais en même temps, tout est tight là-dedans. Les guides aussi. Le petit ton de fuzzy que tout le monde a aussi au travers de ça. Je trouve ça très, très, très intéressant. Puis, c'est une toune. Elle me sonne pas science-fiction tant que ça en tête. Oui, le background, mais ça reste quand même... Tu sais, j'ai la misère à mettre le mood R&B et science-fiction ensemble, puis ils ont quand même réussi à le faire. C'est, mm-hmm. C'est très... C'est assez complexe.
On dirait
comme
vraiment
démarche.
Une toune qui a 30 ans. Hein? On dirait une toune de 85.
C'est comme je disais, hein, il y a un attachement de Alex Turner à l'époque des années 80, puis on le sent. On le sent énormément. Par la suite, il y a une autre chanson qui s'appelle She Looks Like Fun. Ça va être la chanson que je vais vous présenter à la fin, fait que je ne vous donnerai pas d'extrait. C'est une autre pièce qui est vraiment intéressante. C'est très Beatles dans la guitare. Vraiment à la John Lennon, à la fin de l'époque, 68-70 environ, là. La version live est bien meilleure que sur l'album. C'est pour ça que je vous partage la version live tantôt. Je crois qu'elle sera une des favorites des fans dans les perfs au live parce qu'elle est vraiment écœurante, surtout avec toute l'énergie qu'ils y mettent. J'ai l'impression que cette tune aurait vraiment bien fité sur l'album blanc des Beatles. Genre, les solos, ça ressemble à des solos de George Harrison et tout.
Okay.
Tu sais, elle aurait pu se mettre là, sur le deuxième, le B-side là, du White Album. Je pense que ça aurait eu un bon fit. Par la suite, on s'en va vers le Bad Phone et je vais vous faire écouter ça. I want an interesting synonym to describe this thing that you say we're all grandfathered in. Ça ressemble un peu à une toune de casino là, juste avant qu'il y en ait un qui se fasse tirer, mettons. Là, ça sonne gangster un peu, j'aime hey, ça.
Mais à date, là, c'est vraiment bon.
C'est
ah,
cool.
Sérieusement.
Moi, tout, j'adore ouais, ça. Vraiment, c'est le type qu'ils ont pris. Là. C'est pas dans mes préférés, je dirais. Mais ils m'ont déstabilisé avec de
ben,
quoi de bon.
Oui, c'est ça.
Fait que on parle du Bad Phone. T'sais, vous connaissez le téléphone de Batman, là? Il fait une métaphore en lien avec ça, un peu comme je vous ai parlé tantôt d'un autre titre d'album. Sur l'album, je veux dire. C'est très, très hip-hop en fait comme trame sonore. J'ai de la difficulté à comprendre le sens des paroles aussi. Puis comme je disais tantôt, le lien avec le Bad Phone, je le voyais plus ou moins. Il se dit disponible au bout de celui au besoin. Ça veut dire, j'essaie de voir un peu qu'est-ce qu'il veut dire par là. C'est comme s'il disait, mettons, moi, tu m'appelles,
si tu as besoin,
vraiment, vraiment besoin de moi, là, prends mon bad phone. C'est un peu ça. Le sujet parle un peu de technologie. J'imaginerais un bon rappeur faire de quoi quand même intéressant avec ce beat-là.
OK.
La guitare n'est pas vraiment en avant-plan sur l'album. T'sais, on l'entend pas vraiment depuis tantôt. Mais ça demeure quand même efficace dans le tout. Mais ce que je trouve intéressant aussi, c'est qu'il chante comme il chante là sur un beat de rap. Tu sais, t'attends pas vraiment à ça. D'habitude, t'entendais genre un Pharrell Williams ou un Ja Rule dans ses tunes où il y avait un mood comme ça, puis il y avait tout le temps comme une fille qui chantait par-dessus, mais c'était pas chanté de cette façon-là. Non, pas avec les mêmes trips. C'était souvent dans un verre d'oreille, là, gossant, là. Mais on est ailleurs, puis vous voyez, la tune elle progresse. Là, on entend d'autres choses qu'on n'entendait pas tantôt.
Mais il chante d'une manière jazzy, oui. Genre à travers un rythme. Ça.
C'est vrai, c'est vrai.
Have redecorated it all. They've changed all the lights and the bars down the side. I've recognized the glow.
Ah, je viens d'entendre un grain de Bono, là.
Ouais, une petite affaire dans
la
voix.
Oui, ça vient de sonner comme la toune de Batman, justement.
Ouais.
Qui est Hold Me, Kill Me, Hold Me, Thrill Me, Kiss Me, Kill Me. Ouais, ça vient de sonner un peu comme ça, là.
Oui, il y a un grain qui est similaire, j'avoue. J'avais pas entendu ça de même, mais je suis d'accord avec ça. Ça nous amène vers la chanson, que le titre que j'adore et que je vais vous faire entendre, qui s'appelle... Oui, vas-y.
Excuse-moi, cette tune-là, là, ouais. Elle me fait tellement penser, genre, tu sais, une espèce de cabaret jazz, un peu, tu sais, de...
Ça va être écœurant parce que les Arctic Monkeys ont tellement touché de styles différents que leurs prestations live vont vraiment être écœurantes. Fait que là, on s'en va vers Ultra Cheese, qui est la dernière tune de cet album-là.
Still got pictures of friends on the wall. I suppose we aren't really friends anymore. Maybe I shouldn't ever have called that thing friendly at all. Get freaked out from a knock at the door.
Ça a un beat de triple swing des vieilles polkas de mariage.
Oui, c'est très, très, très Beatles.
Ouais, vraiment.
Ça pourrait être une compo, vraiment. Ça pourrait être un cover des Beatles, justement. Le feeling y est. Moi, j'adore vraiment ce morceau-là. J'adore le titre, Ultra Cheese. Tu sais, on va dire des choses que quand on en met un peu trop, là, c'est cheesy. Mais là, c'est Ultra Cheese, là. Puis. Vous allez entendre tantôt le petit solo, mais qu'on s'y rende, là, je vais te dire ça. Là. Puis c'est écœurant. La voix un peu à la Lennon au travers de ça. On est vraiment dans nos vibes que du reste de l'album, par contre. On a entendu du Arctic Monkeys de même dans le passé. C'est la seule tune que je trouve qu'on peut retrouver le même style dans d'autres albums, entre autres sur Humbug.
Okay.
Mais ça demeure encore plus mature, une bass très, très, très McCartney. Ça serait un excellent show de fin de, un slow de fin de soirée. Retiens ça, mon Simon.
Sérieux, hein? Oui, j'aime bien ça.
Tout comme l'album là, que j'écouterais lors d'un souper en amoureux. Donc, on se laisse aller un peu. Écoutez son.
And dress like a fictional character from a place they call America in the golden age. Trust the politics to come around when you were just trying to orbit the sun, when you were just about to be kind. Because you had the chance. I still got pictures of friends on the wall. I might look as if I'm deep.
Il y a du talent vocal.
Ah
là.
Non, il était carré.
C'est incroyable.
Alex Turner, sérieusement, il fait réagir beaucoup dans le monde de la musique de par sa qualité d'impresario aussi. Puis tu sais, gardez-le. Ça ici, la remonte un petit peu, là, ça c'est très très Beatles cette passe-là.
ça sonne Yellow Submarine.
C'est bon, hein? C'est excellent. C'est un esti tune.
Ça sonne Yellow Submarine en tête.
Ah, il y a tous les ingrédients. Les perfos live sont rendus à plusieurs musiciens, puis ça, je trouve ça intéressant de les avoir. J'ai déjà vu live à Oshéaga, entre autres, puis j'avais été un de mes meilleurs shows que j'avais vu de ma vie. Je trouvais que ça sonnait comme une tonne de briques. Puis là, ils se sont, entre autres, une collaboration du bassiste du groupe Tame Impala, qui est d'un autre band excellent, là, que j'ai déjà parlé plus tôt dans d'autres épisodes. On a passé vraiment d'une formation de 4 à 7 musiciens, plusieurs claviers, comme j'ai dit tantôt, 2 guitares, une bass, percussionniste, batteur. Les chansons, dans le fond, de Tranquility Base Hotel and Casino, je trouve qu'ils sont meilleurs live. Turner et Cook font vraiment leur tour, chacun au synthé, lâche la guitare, vont au synthé de temps en temps. C'est clair que c'est un album, oui, qui est peut-être plus Turner que Monkees, mais en même temps, Alex Turner, il a dit, tu sais, mon projet principal, c'est pas moi, c'est les Arctic Monkees, puis c'est avec eux autres que je vais faire ça. Comme je disais, les instruments sont très, très, très 60 dans le grain. Puis surtout dans ce qu'ils sont utilisés. Là, mm-hmm. Hier, ils vont jouer avec des guitares Fender Mustang, des Jaguars, avec des fuzz années 60. Pour les mordus, inquiétez-vous pas, là, dans les lives, ils jouent encore les bons vieux classiques comme 505, I Bet You Look Good on the Dance Floor, Do I Wanna Know, Brick by Brick, Are You Mine, etc. Mais les membres du groupe, là, tels que, comme j'ai dit, Tame Impala, mais aussi The Milburn qui font partie de ça, qui ont deux groupes, je dirais, sont en pleine éclosion dans le mouvement indie. Bref, c'est un album qui est beaucoup plus mature au sens de la musique et des paroles. C'est tranquille, comme le dit le titre, comme on pourrait dire. Il est surprenant que personne ne s'attendait vraiment à cet album-là de leur part. J'ai entendu aussi beaucoup d'influences de David Bowie au travers de ça, surtout dans le vocal. Si le but était de faire un album à écouter en amoureux, c'est réussi. Turner est très, très lover, ça paraît. Il y a vraiment un côté soft rock, des lyrics qui sont plus poétiques que jadis. C'est clairement un album de type fin 60s, début 70s, mais avec une touche futuriste avec les synthés. Et l'album se veut un univers vraiment créé de A à Z par ce cher Alex Turner que je vous montre encore, notre cher gars qui a l'air d'un vendeur de coke des années 80.
Ah, c'est incroyable comment il a vraiment l'air d'être sur le bord de nous vendre 2 tonnes là, avec un fastball ou quelque chose. Là. C'est, ah, Seigneur.
Donc, j'y vais vraiment avec la note que je donnerais. Dans le fond, j'ai expliqué hein, souvent le top 5 de paumé pour les albums. C'est un peu fait à l'envers. Top 1, c'est excellent. Top 5, c'est que c'est nul à chier. J'y vais quand même avec un top 3 pour correct bon. Je m'attendais un petit peu plus. J'adore le mood. Je trouve que c'est très bien produit, mais je pense que ce qui me fait passer d'un... Ça serait peut-être plus un 2.5, mettons top 2.5. Parce que, juste par rapport à mes attentes de ce que je connaissais du groupe d'avant, je m'attendais à quoi un peu plus rock'n'roll. Mais au fil des écoutes, puis même à soir, en faisant l'analyse, j'aurais tendance à le monter. Fait que donc, pour la première fois à Maillé Podcast, je change ma note que j'avais mise au départ et je vais vers un top 2 pour l'album Tranquility Base and Hotel, qui est un album, je crois, produit d'une excellente façon et que j'ai su, je crois, vous vendre ce soir.
Oui.
Donc, on pourrait y aller...
Je l'ai acheté, justement.
Fait qu'aujourd'hui, on va y aller à leur chanson avec la chanson, je viens de dire chanson 3 fois. C'est juste pour vous rappeler.
Ah oui, une quatrième fois.
Ben là, je vais vous mettre la chanson. She Looks Like Fun de Arctic Monkees, version live. You got a straw in something tropical. I've got the party plugged right into my skull. Wayne Manor, what a memorable NY. Every whimsical thought that enters my mind. There ain't no limit to the length of the knobheads we can be. She looks like a blue cow scale.
swear you can wag your tongue, baby, but why can't we all just get along? Dance as if somebody's watching, 'cause they are.
Production Podcast présente
Le Pervy Show, un podcast supérieur où se mélangent le cynisme et le sarcasme, agrémenté d'une touche de dépression.
Ben non, asti, viens rire avec Sani Amel puis Pascal Gélina, deux passionnés de musique puis d'affaires que le vrai monde ne savent même pas qu'ils existent, en passant de la meilleure sorte de tourbe pour votre terrassement jusqu'aux extraterrestres. Prenez le temps de décompresser avec vos deux animateurs nowhere préférés. Puis oublie pas, il y a juste toi d'assez capoté pour écouter ça.
Disponible sur tout bon podcatcher et podcast.com.
Il y a des détails, 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 il y a des détails,
il y a des détails, il y a des détails, épisode 71 dans l'antre de la bête. Ah, je m'ennuyais de cette intro. Hey,
moi, tout ça. Ça. Ah, ben, oui. Nos trois intros, là, incluant. Ouais.
Ça fait vraiment du bien de la réentendre encore une fois. Jay!
Salut!
Là, cette semaine, ce mois-ci, parce que c'est pas les autres semaines dont on a parlé de oui. quelque chose. T'avais quelques sujets intéressants que tu as dû mettre sur la glace. Vu que ça fait 5 semaines, puis oui, que c'était de l'actualité, puis bon, tu sais, les sujets qu'on a mis un peu sur le côté parce que c'était plus si tranchant ou rendu au moment aujourd'hui où on a. Est-ce que tu as quand même réussi à sortir un lapin de ton chapeau pour nous impressionner cette semaine?
Ben oui, ben dans le fond, je vois que t'as regardé notre live à moi, à Paumé et moi.
Effectivement.
Puis j'ai décidé d'en ramener un, de ramener une actualité qui a fait le buzz. Là, je me créerais comme un animateur de TVA. Là.
C'est-à-dire?
Ça a fait le buzz. C'était spectaculaire.
Oh,
il y a eu des morts.
En direct.
Ben, je suis allé avec mon hélicoptère directement sur la scène du crime. Et puis, en tout cas. Mais l'actualité que je veux ramener cette semaine, c'est bien sûr l'affaire, le scandale de Jérémy Gabriel.
Ah oui, oui.
Parce que moi, je ne l'ai pas vu comme les autres. Je ne sais pas si vous l'avez vu comme moi, mais en tout cas.
Il fume le weed.
Ouais, on a vu Jérémy Gabriel au Rockfest de l'été passé qui aurait fumé de la drogue.
Est-ce qu'il se prendrait du cannabis?
Il fume ouais. de la dope.
Mais moi, je me suis dit. Une petite roche. À un moment donné, il n'y a pas un peu d'acharnement dans tout ça parce que je me suis dit. À un moment donné, laissez-les vivre un peu, c'est terrible. Laissez-les vivre un peu ce qu'il y a à faire. Mais le problème, c'est que Jérémy, je vais l'appeler même, parce que je suis tanné de l'appeler le petit Jérémy, il a quand même rendu à 19-20 ans, c'est le gars. Là. Jérémy a complètement nié ses allégations mensongères envers lui. Regarde, gars, c'est correct. Là. Regarde, tu peux le dire. Bon, on dirait qu'il veut. Tu sais, son public, c'est plus un espèce de public, je dirais, du troisième âge. Et puis, je crois qu'il veut pas les offenser. Alors, il a nié en bloc ses accusations. Puis moi, je me suis dit, c'est quoi l'intérêt de propager et de partager ça? Tu sais, il y a eu pas mal de partages sur les réseaux sociaux. Et puis, son avocat et lui ont pensé même envoyer une mise en demeure au Rockfest pour qu'il enlève la publication. Alors, le Rockfest a enlevé la publication, mais a fait un message par la suite qui était savoureux. Je ne l'ai pas avec moi textuellement, mais ça voulait dire « Désolé à ce grand de la chanson québécoise
oh. ».
Ça a été là, direct dans le mille. Félicitations. Mais en même temps, je voyais pas vraiment l'utilité de partager ça, de bâcher ça. Tu sais, le jeune fait ses expériences.
Tant qu'à moi, ce qui est plus scandaleux que la photo où il fume un doobie, c'est plus la photo avec Vandal Vixen aussi.
Oui.
Ça aurait de l'air ben là, qu'il aurait été invité à se produire dans un film pornographique avec elle par les productions Pégase, qui est une production québécoise de films pornographiques.
Je connais pas.
Pour, parce qu'il aurait aimé ça faire la promotion du petit Jérémy qui, j'imagine, est devenu grand et qui aurait couché avec une porn star québécoise.
Il aurait couché vraiment avec Vandal Vixen.
Quand je dis pas, il aurait couché dans le sens que s'il avait dit
oui,
il aurait fait un film pornographique avec la porn star québécoise.
Mais en même temps, je me dis, à un moment donné, ça va-tu arrêter là, de parler? Regarde, puis à un moment donné, moi, j'étais curé d'entendre parler.
Ils vont tout le temps en parler.
Ils salient mon nom.
Ils n'ont parlé longtemps.
J'étais curé d'entendre parler de Jerry.
Ils n'ont parlé longtemps de Kenny puis son skateboard.
Mais ça, tu vas être dans la merde.
En tout cas,
c'est pour ça qu'on appelle Jay, nous autres, on essaie de t'enlever ce poids-là.
Puis check Martin Deschamps.
Il y a eu. C'est vrai que pendant des années, Martin Deschamps.
Ouais, ils se sont acharnés dessus.
Mais c'est ça, tu sais, à un moment donné, cet acharnement-là, je commence à être écœuré.
Moi,
ça,
je pense que.
Ça vire à rien.
Si t'es une figure publique, c'est sûr, faut que tu t'attendes à des choses comme ça.
Oui, exactement.
Mais là, tu sais, Alex Martin, moi, je trouve qu'il est allé peut-être un peu loin, parce que dans le fond, ça se partageait partout sur les réseaux sociaux, cette photo-là. Puis lui, il a juste repartagé d'un Puis, tu sais, lui, je voulais faire comme une joke. En même temps, il avait fait une espèce de pause disant qu'éventuellement, le Rockfest aimerait peut-être légaliser la marijuana. Pas légaliser, mais lorsque ça sera légalisé, de pouvoir avoir des kiosques qui vendraient leur propre marijuana sur le site, ces choses-là. Fait qu'il s'en est servi un peu comme tout bon good marketing a tenté de faire parler de lui.
Ouais.
Puis, c'est très, très dommage un sens. En même temps, petit Jérémy, sérieux, là, si tu veux pas personne le sait que tu fumes du pot, là, t'as rien qu'à pas te faire prendre en photo. Là.
Mais en plus, c'était par une de ses chums.
Ben, ouais,
mais c'était une de ses chums qui le prend en photo. Méchant, fait, à un moment donné,
méchant pourquoi... bonne chum.
Mais non, mais c'est ça. Pourquoi dire que tu vas envoyer une mise en demeure au Rockfest quand c'est une de tes chums justement qui a pris une photo? Tu sais, avertis tes amis justement que de pas te prendre en photo pendant que tu prends une puff là.
Non, pis tu sais, pas à faire du monde non plus.
Non, c'est pas à faire du monde.
Justin Bieber là, quand il s'était mis à fumer du pot là sur Twitter, il y avait un hashtag qui était marqué Cut for Bieber, puis là les petites filles se faisaient de l'automutilation parce que leur grand héros d'adolescent fumait du pot. Fait que là, moi, j'avais lâché une petite joke plate là, sur le groupe Never Too Soon. Okay. ça vous comprenez?
Jamais trop tôt.
Jamais trop tôt. J'avais lâché de quoi en voulant dire, tu sais, un cut for petit Jamie, mais tu sais... C'est hashtag-là pas duré bien longtemps.
Non, fait que c'est ça. Je voulais ramener ça juste pour dire qu'à un moment donné, arrêtez d'en parler, j'étais curé. La prochaine, ça s'est passé hier. Une autre tuerie dans une école, cette fois-ci au Texas. 10 jeunes qui ont été tués froidement par un des élèves. Puis ça m'a amené la question, plus l'espèce de comment je dirais ça, l'affirmation dans ma tête que jamais le gouvernement américain va faire quoi que ce soit pour restreindre l'accès aux armes. Je vois ça, puis cette société-là est en train de s'auto-détruire. Parents dedans.
Depuis la tuerie de Columbine, là, qui est la première.
La première vraie médiatisée. Ouais.
Depuis celle-là. Là,
combien
il y en
a eu?
T'as-tu incroyable. Vu? Oui, il y en a eu plusieurs.
C'est ça.
As-tu vu un changement drastique?
Non, puis on dirait que c'est de plus en plus banalisé. Vu que justement c'est médiatisé, puis je le comprends.
Tu viens de le dire, Jay, tu viens de dire, mettons, la tuerie. Là, puis dans ma tête, la première chose que je me suis dit. Ah, c'est poche. Vrai, j'ai eu un moment de compassion, mais tout de suite après, j'ai fait. Mais encore un autre.
Ouais, mais là, ça s'est passé au Texas.
C'est rendu au Texas. Banal.
Oui, c'est triste, là.
T'as pas plus pro-gun que le Texas.
Exactement. Oui,
ça se passe dans les places pro-gun à côté, dans Borreux.
Mm-hmm.
Fait que, tu sais, ceux-là qui se défendent le plus du port d'armes. Là, c'est quoi l'excuse, M. Trump? Là? C'est quoi? C'est à cause qu'on trouve que ça n'a pas de bon sens qu'on arme les enseignants et on leur donne cette, cette charge-là de plus à leur travail, qui est déjà assez intense comme ça. Mmh. Faudra en plus leur dire, mais vous autres êtes responsables avec un gun. Fait que si y a un gars qui rentre avec une mitraillette, là, ben tu dois l'affronter puis le headshotter avec ton petit Glock.
C'est vrai ça pour moi. Pourquoi je me dis qu'il va jamais rien se passer aux États-Unis pour avoir un changement. Justement, tu viens de le dire. Leur gouvernement, mettons qu'on parle du gouvernement fédéral, mais leur gouverneur dans ces États-là du Sud, ils ont aucune intention de changer quoi que ce soit. C'est une société qui a été bâtie sur la violence. Leur histoire est basée vraiment sur la violence. Ils ont obtenu leur indépendance par les armes. Puis ils font encore confiance à une constitution qui a genre 230 ans, puis ça va pas changer.
Charlton Heston le disait lors d'une conférence.
Charlton Heston, justement, qui est
de la NRA, National Rifle Association, avec son gun dans les airs dans le reportage de Bowling for Columbine de Michael Moore, qui disait vraiment, là, tu sais, if you want my rifle, come and get it over my dead body. Le message est trop clair de dire, peu importe ce qui va se passer, mon jugement ne sera jamais altéré par une tuerie. J'ai un gun sur moi et je le garde. Mm. C'est ça leur mentalité et c'est ça qui
Mais leur mentalité, c'est que...
Triste.
Oui, c'est triste. En même temps,
nous autres,
c'est
le premier amendement. J'ai le droit de me défendre. J'ai le droit d'avoir un fusil sur moi. C'est lui qui est fou. Mm. C'est pas moi.
Exactement.
Mais c'est parce que... Je suis pas en train de te dire d'enlever tous les fusils, mais comment ça se fait que des tueries comme ça arrive aux États-Unis? Ouais.
Mais justement,
pas mal
dans
plus
les
qu'ailleurs.
Oui. Je veux dire une affaire, là. Mettons qu'on compare au Canada. Je ne veux pas comparer aux pays européens. T'sais, ils disent en Europe, il n'y en a pas. Oui, mais en Europe, vous n'êtes pas un continent où est-ce qu'il y a des pays de chasseurs. T'sais, justement, au Canada, il y a de la chasse. Aux États-Unis, plus dans le nord. Dans le nord des États-Unis, ils sont collés sur la frontière.
Ce que tu comprends,
c'est
que beaucoup de citoyens qui ont des armes à feu. Ça, tu veux dire, moins, on voit moins ça en Europe, mais on voit plus ça, dans le fond.
Ce que je veux dire, c'est que pourquoi qu'au Canada, même si on est bien moins, on est genre 10 fois moins de population qu'aux États-Unis, comment ça se fait qu'il n'y a pas une espèce de corrélation, genre une espèce de lien? Si tu as des armes, il y a plus de tueries. Au Canada, là, quand est-ce qu'on entend parler justement? Il y en a eu des tueries, je ne dis pas qu'il n'y en a jamais eu. Il y en a, mais tellement moins. C'est exponentiel aux États-Unis. Je regarde ça avant de m'en venir là, à tous les jours. À tous les jours, il y a des tueries dans les écoles ou des tentatives de tuerie. Mais à tous les jours, il y a au moins un blessé par balle dans une école secondaire aux États-Unis. Tous les jours. C'est juste que c'est jamais médiatisé. Mais allez, au pire, je vais mettre un lien sur la page de My Podcast. Je sais pas si vous en souvenez, mais...
Dans les écoles aux États-Unis à tous les jours.
Oui, ça tire du gun dans les écoles à tous les jours aux États-Unis. Puis je me dis, pourquoi que, justement, dans le documentaire... Oui, ils sont malades. Dans le documentaire de Michael Moore, justement, Bowling for Columbine, il disait, au Canada, c'est un peuple de chasseurs, c'est un peuple... Il y a beaucoup, beaucoup d'armes en circulation au Canada. Comment ça se fait que nous autres, notre mentalité n'est pas orientée vers le mass shooting comme aux États-Unis, comme ça? Ils devraient en avoir, tu sais, on a des armes, mais non.
On est tellement
parce que on n'a pas, c'est pas dans nos gènes.
Non,
notre indépendance, tu sais, si indépendance, là, je ne veux pas rentrer dans la politique canadienne, là. Je sais que notre chef d'État, c'est la reine de nos pays, là. Mais notre indépendance, on l'a pas eu par les armes, tandis que eux autres, là, c'est marqué dans leur gène. Que les armes amènent la liberté, les armes amènent la sécurité, et puis ça va rester tant et aussi longtemps que les États-Unis vont être une puissance mondiale. C'est juste ça que je voulais dire.
Ouais.
Ouch.
Quelque chose de plus soft, comme dirait. Les gars, pendant notre année de break, je suis allé au cinéma. J'en ai profité pour aller au cinéma. Ah. Avec mon jeune neveu, Noah. Je te salue, Noah.
Je vous salue, Noah.
Oui, ben c'est sûr qu'il n'écoute pas ça, il y a 8 ans. Mais j'en ai profité pour aller voir avec lui.
On va l'abonner.
J'en ai profité pour aller voir avec lui le nouveau film Infinity War.
Oui, et puis?
Les gars, j'en parle, j'ai de la chair de poule dans les yeux.
Au palais!
Ça fait mal quand je cligne.
Et puis, mais avant, je suis allé voir Black Panther.
La chair de poule dans les yeux.
Aïe, 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 aïe.
Je vais commencer avec Black Panther parce qu'il est sorti avant Infinity War. Black Panther, qui est le personnage du Wakanda.
Oui.
Un espèce de prince que son père est décédé à l'ONU. Il y a eu une attaque à l'ONU, puis le roi du Wakanda est décédé. Et puis, c'est son fils qui prend sa place.
That's it.
Les gars, pour moi, t'es-tu un amateur du Marvel Universe, non?
Je suis pas un amateur, je suis un néophyte.
OK, ben d'abord, Simon, lui, il se ronge les doigts en voulant dire « OK, continue et demande-moi la même question. »
Vas-y, vas-y. J'adore les Marvel.
Ouais, hein? Black Panther, les gars, c'est dans mon top 5 ever du Marvel Cinematic Universe.
Je connais assez ça pour comprendre que c'est big.
Je peux vous dire qu'en ce moment, il y a 18 films qui ont été faits depuis Iron Man 1.
Tu nous as partagé cette semaine.
Oui, justement. Ouais. Regarde, j'étais tellement excité.
Ah ouais, c'était
puis,
cool.
Black Panther... c'est un excellent film. On a vu, je pense que c'était dans Civil War, dans le troisième Captain America, qu'on parle un petit peu de Black Panther puis du Wakanda,
ouais,
mais pas beaucoup. Mais là, c'est vraiment...
consacré à lui.
Ouais, un film consacré à Black Panther. Et puis les gars, c'est vraiment excellent. Dans le fond, le Wakanda, c'est un pays d'Afrique qui s'est développé avec un métal très, très, très puissant qui fait en sorte qu'ils peuvent faire des armes ultra, ultra avancés technologiquement. Ils peuvent se protéger. Ils peuvent même devenir invisibles s'ils veulent. C'est vraiment, vraiment bon. Puis le costume de Black Panther, bien évidemment, est composé de ce dit métal.
Uh-huh.
Et puis, dans le fond, l'histoire, c'est vraiment la même que le Roi Lion. C'est-à-dire que au début...
Le Roi Lion!
C'est-à-dire qu'au début, il y a le roi qui meurt, son fils prend la place et il tombe en chicane avec quelqu'un de sa famille pour avoir le trône.
Ah, j'avoue que c'est assez pareil.
C'est vraiment...
Est-ce que le méchant s'appelle Scar?
Non, il s'appelle... Attendez un instant. Non, j'ai oublié son nom, son prénom. Mais c'est le cousin. C'est le cousin de Black Panther, de Shtala. Et puis, il s'appelle Shtala dans le film.
Davy Cruiser Ouellet.
Davy Cruiser Ouellet. L'acteur qui fait le cousin, c'est celui qui fait Creed, qui joue dans Creed, l'espèce de film de Rocky. Là.
Okay, oui, okay, Apollo Creed.
Oui, c'est ça, c'est le fils d'Apollo.
Il me semble qu'il s'appelle Michael Jordan, mais genre pas le Michael Jordan.
Michael Jordan, quelque chose.
Ouais, c'est oui, ça. Michael Jordan.
Et puis, Michael Jordan Rodman.
Pippin
O'Neal.
Par exemple, ce que j'ai pas aimé, c'est que j'ai pas réussi à haïr vraiment le méchant, le cousin. Non, il est trop sympathique. Moi, je le trouvais sympathique. En tout cas, ça serait un bon chat.
Ça serait ton ami?
Oui, ça serait mon ami.
Ça serait ton ami?
Oui, je l'inviterais au podcast.
Tu le verrais te dire bonjour en rentrée du Walmart.
Ah oui, exactement. Donner un coup de griffe en face.
Bonjour.
Bienvenue chez Walmart.
Bienvenue chez Walmart.
Et puis, ensuite, le troisième Avengers Infinity War.
Comment il était?
C'est incroyable. Dans mon top 5, c'est le premier. C'est mon préféré des films Marvel, Infinity War. On parle bien sûr de Thanos qui enfin rentre dans l'histoire des Avengers. Juste pour vous dire au début comment ça commence, c'est comme je sais pas si vous avez écouté Thor Ragnarok.
Pas encore.
Non, juste vous dire à la fin de Thor Ragnarok, ils sont sur un vaisseau et puis dans le vaisseau, il y a Loki, Thor et puis Hulk. Le début d'Infinity War, Thanos arrive dans ce vaisseau-là.
Okay.
Bruce Banner se transforme en Hulk, s'enligne vers Thanos. Il enligne un coup de poing. Thanos, il prend le coup de poing, le met à terre et puis assomme Hulk d'un coup. Et puis Hulk ne réapparaît. C'est un spoiler.
On ne le revoit plus.
On ne le revoit plus. On voit Bruce Banner, mais on ne voit plus Hulk parce qu'il a peur. Il a été vraiment touché dans son orgueil profond. Là.
Oh.
Et puis, juste pour vous dire la force de ce bonhomme-là. Et puis, le but du film, le but de Thanos, dans le fond, dans Infinity War, c'est de récolter les 6 pierres d'infinité qui sont, je ne vais pas toutes les dire, le temps, la pierre de temps, la pierre d'âme, la pierre... il y en a plusieurs, il y en a 6. Juste pour vous dire qu'il se fait Hulk avec 2 pierres. Fait qu'imaginez à la fin quand il récolte les 6, c'est assez destructeur, merci.
Wow. Aïe, aïe, aïe.
Alors,
aïe,
si vous n'avez pas vu...
Replonger.
Oui, alors si vous n'avez pas vu Black Panther, Simon, je l'ai à la maison. Je peux te le passer.
J'aimerais ça.
Et puis Infinity War, malheureusement, je ne l'ai pas à la maison, mais tu peux le retrouver dans toutes les bonnes salles de cinéma encore. Avant que
tout à fait.
Intéressant.
Ensuite, hier, les gars, comme j'ai dit à Paumé tantôt, je l'ai texté puis j'ai dit « Paumé, parles-tu de Vegas dans ton segment? » Il me dit « Non, je parle pas de hockey. »
Non, ben, de la merde, c'est-tu.
Ouais, j'ai dit « Écoute, moi, je suis figé depuis hier soir parce que les Golden Knots, comme dirait Jean-Charles Lajoie, s'en aillent en finale de la Coupe Stanley. »
Oui, ça y avait eu un tour de quartier en slip coquille après la première ronde, puis là, ouais. Sont en finale de la Coupe.
En finale de la Coupe Stanley.
Écoute, c'est une équipe puis, de seconde main avec des restants d'autres clubs.
Des bons restants, mais des restants
oui,
quand
oui,
même.
Dans le sens que je ne suis pas péjoratif dans mes dires. Et que tout le monde se disait, ben équipe d'expansion, qu'est-ce que tu penses que ça va faire?
Non,
une
mais
coupe de bonnes victoires dans la saison,
écoute,
puis après, ça va faire patate, puis c'est fini. Puis là, ils sont en finale
genre
de la coupe Stanley.
Ils ont fait là, des tours de force. Là. Ils ont été chercher... dans le fond, Riley Smith et Marchessault qui sont sur leur premier trio avec Carson. Dans le fond, pour les Panthers de Floride, pour protéger Alex Petrovic, qui est un défenseur,
Kikendo, entre autres, ils ont dit
vous autres, on vous échange Riley Smith si vous prenez Marchessault. Fait que là, c'est le deux meilleurs joueurs d'attaque en ce moment. Et en plus, ils ont échangé au Columbus Blue Jackets. Dans le fond, ils ont reçu le contrat de David Clarkson, un choix de deuxième ronde et un choix de première ronde de la part de Columbus pour faire sûr qu'ils prennent William Carson. William Carson a scoré 43 buts cette saison. Donc, ils ont crossé deux clubs d'aplomb avec leur premier trio. Puis non, sérieusement.
Mais d'être à l'une, aussi, qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait d'être à l'une?
Je sais pas ce qu'il a fait.
C'est pas lui, ça. C'est comment qu'il les a évalués?
C'est ça.
Puis Jarmo Kekäläinen, justement, à Columbus, le DG, à Columbus,
c'est
ce qui est passé.
Mais c'est sa seule vraie erreur.
Oui, parce qu'à date, Kekäläinen, à Columbus, il n'a pas fait de grande erreur. Il était sa quatrième ligne, Simon. L'année passée, il a scoré 5 goals. Il était sa quatrième ligne. Là, il est sa première. Il est centre du premier trio
43.
De Vegas. Il en met 43 dedans. Il s'en va en finale de la Coupe Stanley avec un Marc-André Fleury qui a vraiment ramassé les 6 pierres de l'infinité.
Oh non, il est incroyable.
Il
a battu
on a su que son surnom de jeunesse était Thanos.
Oui. Ah, oui. Ben, il a battu, dans le fond, là, ce soir, c'est encore 0-0 Lightning Capitals dans le sixième match qui pourrait être s'il est remporté par le Lightning, ça vaut dire qu'en finale de la Coupe Stanley. Et puis, je vois pas comment le Lightning ou les Capitals puis pourraient les battre.
C'est Vegas
Marcus croit que Washington serait capable. Mais je vous dis, là, moi, je pense que Vegas s'en va chercher la coupe. Ça va. Puis tu sais quoi? Moi, je suis en arrière d'eux autres à 100 000 à l'heure. Tant qu'à y aller, là, allons-y pour la coupe.
Tu sais quoi que je pense qui va arriver? Ils vont gagner la coupe. Puis ils vont changer le Bellagio, puis ils vont faire un gros crise d'édifice en Coupe Stanley en or.
Ben, ils ont fait un Marc-André Fleury en chocolat au début des séries.
Hey, mais ça serait bon qu'ils gagnent 6.
Pesant 120 livres.
Faudrait-tu qu'ils gagnent 6 en ligne? Genre, il n'y aurait jamais eu d'équipe dans l'histoire. Il y a les Blues de Saint-Louis en 68 qui ont fait la finale à leur première année. Mm. Puis les Saint Pat's de Toronto qui ont gagné la Coupe à leur première année dans la Ligue, ce genre en 1917, sa première année. Mais tu saurais-tu que s'il gagne, ça serait une première depuis les Saint Pat's? Mais maintenant, il gagnerait deux en ligne, là, ça serait jamais vu, trois en ligne.
Mais moi,
qu'il en fasse 6 en ligne, qui va être la dynastie du Canadien? Tiens-toi. Puis là, entre-temps, si jamais ils en perdent, puis que ça soit Seattle qui gagne, tiens-toi, deux clubs d'expansion gagnent toutes les coupes. Ah oui.
Mais moi, ce que j'amène à ça, c'est que. Tu sais, j'ai écouté des podcasts là-dessus, j'ai écouté Jean-Charles en liberté, tout ça. Puis ils disent que c'est mauvais pour la Ligue. Moi, je suis pas d'accord parce que, tu sais, ils disent « Ah, les règles d'expansion étaient ben trop permissives. » Mais je m'excuse, là. Mais si admettons, la Floride laisse pas passer Marchessault puis Riley Smith, si William Carlson n'est pas envoyé là, il ne gagne pas la Coupe. Je m'excuse, là, mais ils pourraient pas gagner. Tu sais, je regarde justement...
Si Pittsburgh sont pas fourrés et sont obligés de trader un de ces deux goalers, ils n'ont pas de Marc-André Fleury.
Exactement. Tu sais, moi, je pense plus que c'est vraiment le vouloir de ces gars-là qui les amène jusqu'où ils sont.
Plus les étoiles alignées pour aller chercher les marches
plus le coach,
des Fleury,
etc.
Le coach.
Mais,
genre, c'était le bon moment.
Mais
ça
y a
se
rien...
peut que Seattle, ça fasse même pas essayer.
Exactement, mais il n'y a rien à dire « Ah, c'est pas bon pour la Ligue. » Ben, regarde, je m'excuse, là, mais c'est Non, je suis pas d'accord.
Non.
Ces gars-là, ils sont là à cause de leur bon vouloir puis de leur bonne attitude.
Non, moi, je veux qu'ils gagnent. Je veux autant qu'ils gagnent que les États-Unis ont gagné contre les Russes en 80. Miracle on Ice, c'est exactement ce qu'on est en train de vivre à l'échelle de la Ligue nationale.
Un autre
comme,
sujet.
Comme dirait Pierre Lambert, all the way.
Yes. Un autre sujet, les gars, par rapport à l'espace. Tantôt, on parlait de podcast sur l'espace.
Oh, yeah.
Selon les observations, les mesures et par le biais d'extrapolation, il y aurait plus de 200 milliards d'étoiles dans notre galaxie et plus de 10 000 milliards de galaxies dans l'univers. 10 000 milliards de galaxies, OK?
On s'entend. C'est vrai que notre galaxie est pas petite.
Ce qui signifie, ouais, en travaillant avec des ordres de grandeur, qu'il y aurait plus de... Un million de milliards de galaxies. Excusez-moi, je suis en train d'essayer de lire le mot. Mille à la puissance quasiment 15 milliards de galaxies. De milliards de galaxies. OK? D'étoiles dans l'univers, excusez.
Ça en fait plusieurs.
Environ 7,6% de ces étoiles seraient de type spectral G, comme notre Soleil. Des soleils, dans le fond.
Okay.
Ce qui signifie qu'il y aurait des planètes potentiellement habitables. Les observations effectuées par le télescope Kepler nous permettent d'étudier des planètes autour d'étoiles lointaines. Grâce à ces observations, nous savons maintenant que presque toutes les étoiles de type G ont au moins une planète en orbite. Au moins une.
Okay. Quand même.
Cela signifie qu'il y aurait jusqu'à 76 000 milliards de milliards d'étoiles semblables au Soleil. Okay? Et presque toutes posséderaient des planètes. Toujours sur la base des observations de Kepler, on estime maintenant qu'un quart de ces étoiles ont au moins une planète rocheuse d'une taille similaire à celle de la Terre et dans la zone habitable, c'est-à-dire dans l'espèce de ring autour du Soleil où est-ce qu'il ne fait pas ni trop chaud ni trop froid. Cela veut donc dire qu'il y aurait 19 000 milliards de milliards d'étoiles semblables au Soleil et avec au moins une planète similaire à la Terre. Alors pensez-vous que nous sommes seuls dans cet univers?
Non. Ben, 19 000 milliards de milliards
de milliards
de soleils
de soleil,
qui ont au moins une planète
habitable.
La range que la Terre, ouais, a de notre soleil présentement.
Alors, il y a 19 000 milliards de milliards de planètes rocheuses.
C'est ça.
Dans une zone habitable.
25 l'été, puis moins 25 l'hiver, puis pas 900 le jour, puis moins 900 la nuit. Là,
exactement. Moi, quand j'ai lu ça, les gars, et c'est pas genre sur une espèce de page obscure de Facebook, quand j'ai lu ça, ça m'a vraiment mis la puce à l'oreille de dire ça se pourrait qu'il y ait une bactérie, au moins juste une forme de vie, genre une bactérie peut-être sur une de ces planètes-là. Écoutez, c'est incroyable le nombre exponentiel de planètes et d'étoiles qu'il y a. Là.
Ça se pourrait qu'il y ait une autre planète formée d'humains qui font ailleurs. Ouais. Qui sont une race, peut-être pas visuellement comme nous autres, mais pas loin, et qui, ou même pas loin de nous autres, probablement, et qui, ces bactéries-là se sont développées comme les bactéries de la Terre se sont développées vers des reptiles, vers des chimpanzés, vers nous, pour devenir des êtres humains. C'est possible qu'il y ait des planètes aussi vieilles, aussi jeunes que la nôtre, puis qu'il y ait des civilisations là-dessus. Là. Mm. Ça doit être vraiment incroyable de dire à un moment donné, on serait capable de voyager ou de voir ou de trouver une façon de...
Moi, je suis sûr qu'ils sont smart.
T'arrives là, puis tu fais comme... Ah si, vous autres aussi, vous écoutez ça, Eminem?
Et puis là, les gars, ma dernière partie de... Ma dernière partie de chronique, parce que là, il commence à se faire tard, puis demain, on travaille. On a fini de fêter les Patriotes.
On s'entend.
Les raisons pourquoi je ne retournerai jamais à un show avec toi, Simon, et toi aussi, Paul.
Comment ça,
là? Je retournerai avec Bidou, Sandra et deux, par exemple.
OK, mais pas de nous autres, OK.
Oui. La première. Attendez, il y en a une, deux, trois, quatre, cinq,
en fait,
six. Il y en a sept.
On s'en met en contexte extrêmement rapidement. C'est que dernièrement, ça a donné que Bloodshot Bill venait faire un show
oui.
au Barbe Brew Pub de Ville-Marie. Et ça a donné que la gang du podcast avait une soirée à perdre. Et on s'est dit, pourquoi qu'on n'irait pas voir le show, puis se la péter, puis envoyer donc. T'allais voir le show, c'était bon, on a eu du fun. Mais Jay et deux sont rentrés peut-être un peu plus vite que nous autres, mais pas longtemps. On est partis pas longtemps après vous autres. Ouais. Et là, Jay, il a l'air d'avoir une crotte sur le cœur.
Ah, j'ai vraiment une... Oh,
je te laisse aller, mon cher.
J'en ai sept, alors numéro 7.
Number 7.
Pour ne plus entendre Martin nous juger parce que nos blondes veulent rester à une table. Là, c'est plus ça, c'est plus Martin.
Mais Martin, il a bougé beaucoup, il connaît beaucoup de gens aussi.
Ah oui, regarde.
Il voulait jaser avec tout le monde puis aller se promener.
Il parlait au monde puis le monde se retournait. Numéro 6.
Number 6.
Pour éviter de dire... Salut à Paumé, quand il arrive, ne plus le voir du reste de la soirée. Ça, c'est vrai. Là.
Quasiment à
ça ressemble à ça.
Ah, et salut au début,
un beau salut, puis on ne l'a plus jamais revu.
Je t'ai rendu dans le trash en avant.
Numéro 5.
Number 5.
Faut plus te voir, Simon, en train de jouer à Tetris à la table.
Tu me niaises.
Le pire, pour de vrai, là,
oui.
C'est que j'ai vraiment, pour de vrai, j'ai vraiment joué 17 secondes.
À Tetris.
J'ai vraiment juste ouvert mon téléphone, je checkais de quoi, puis là, j'ai fait comme, ah, on a une game de Tetris.
Ouais.
Je pars le jeu, j'ai placé, je te jure, 4 blocs.
Puis moi, je la regarde.
J'ai placé 4 blocs le temps que tu me juges à jouer, puis j'ai fait, ouais, c'est blague, je vois Tetris finalement. J'ai arrêté de jouer tout de suite, puis c'est là que tu m'as dit, tu joues à Tetris.
Tu joues à Tetris pendant le show?
Exactement.
Numéro 4.
Number 4.
Pour plus te voir, Simon a envoyé 8 personnes à l'hôpital à cause que tu les as trachées.
C'est vrai. Tu les
as blessés pendant le trash.
Quelqu'un a fait de la toupie.
Ouais, justement.
Quand j'ai fait le kick de Ken dans Street Fighter, dans la foule, effectivement, ça peut être relativement dangereux.
Celui qui a fait French le bar.
Je me suis retenu. Voilà.
Numéro 3.
Number 3.
Je sais pas si tu t'en souviens, Simon, mais pour plus être concentré sur un article Facebook de jouets sexuels des Avengers.
Quoi?
T'en souviens-tu?
Oui, je m'en souviens. Il poke son téléphone, il dit « Hey, check ça, c'est des articles sexuels des Avengers et dans la gang, tu sais, il y avait genre un dildo
de
Spider-Man,
peu importe.
Il y avait vraiment le point de Hulk et c'est vraiment
le point.
All size respected. Là.
OK.
C'était le point de Hulk. Puis il n'est pas fait rond pour que ça rentre mieux. Là. Mm. C'est le point de Hulk.
Ah, ouais.
Et aussi le célèbre butt plug du Mjolnir de Thor.
Le butt plug de Thor.
Oui.
Mais moi, je m'excuse, mais je ne sais pas si je devrais dire respect ou mes sympathies à la fille qui a pour de vrai le point de Hulk. Comme jouet sexuel. J'espère vraiment qu'elle a un discount d'abonnement au Costco avec le KY parce que sinon, ça doit faire mal longtemps.
Comment ça rentre là?
Ouais.
Je ne sais pas.
Numéro 2.
Number 2.
Pour ne plus chanter des tunes de Plastique Bertrand à tue-tête pour essayer d'enterrer le band.
OK, ça a eu lieu ça?
Ouais.
Je suis un peu inquiet.
T'es en avant toi?
T'es en avant. Ben, moi, Simon, t'as une table et on chantait du Plastique Bertrand.
J'étais un peu inquiet.
On chantait tous les deux ensemble. Stop! Ouh! Encore!
Encore!
Hey, je te dis, mon gars, t'aurais dû voir le monde qui nous jugeait.
Ben, c'est clair.
Ah, c'était
mais le
incroyable.
Pire, celui qu'on a crié à tue-tête pour justement. Tu t'en souviens, Simon, puis m'a laissé le faire, OK? Tu t'en souviens, hein? OK. Pour ne plus crier 20 fois d'affilée la célèbre phrase.
Attention!
OK, puis je suis avec ça, OK? Après ça, ma tune, ça va être The Cave, parce que. The Cave de Mumford & Sons, parce que je suis content de revenir dans ta cave, dans l'antre de la paille.
C'est cute.
Alors, son tête de Cave de Mumford & Sons. Et puis la phrase qu'on a criée 20 fois d'affilée, moi et Simon, puis que Martin 2 et puis Sandra étaient écœurés de nous entendre crier, c'était
« Va mettre la robe de ta mère, puis dis-moi que tu m'aimes! »
It's empty in the valley of your heart. The sun, it rises slowly as you walk away from all the fears and all the faults you've left behind. The harvest left no food for you to eat. You cannibal, you meat eater, you see. But I have seen the same, I know the shame in your defeat. But I will hold on hope and I won't let you choke on the noose around your neck. And I'll find strength in pain and I will change my ways. I'll know my name as it's called again. Other things to fill my time. You take what is yours and I'll take mine. Now let me at the truth which will refresh my broken mind. So tie me to a post and block my ears. I can see where those orphans through my tears and know my call despite my faults and despair.
despite my growing fears. But I will hold on hope, and I won't let you choke on the noose around your neck. And I'll find strength in pain, and I will change my ways. I'll know my name as it's called again. So come out of your cave, walking on your hands, and see the world hanging upside down. You can understand dependence when you know the maker's land. So make your sirens call and sing all you want. I will not hear what you have to say, 'cause I need freedom now, and you know how to live my life as it's meant to be.
Band. Une salle vide. Le public, c'est les auditeurs. Le show, il est gratis.
Disponible sur tout bon podcatcher et podcast.com.
Salle vide.
Maillé Podcôte, épisode 71 dans l'antre, qui s'achève déjà, ma foi, ça a passé comme une balle, pour pas faire de jeu de mots avec les tueries. Non, écoute, on rit pas de ça, au contraire,
non,
vraiment poche, effectivement, mais oui. Écoute, comme tu l'as dit dans le sujet, il y en a tellement que ça en devient malheureusement redondant, et effectivement, il va falloir que les États-Unis bougent là-dessus pour qu'il se passe quelque chose d'autre que d'autres tueries, justement. Ouais. Les gars, je voulais finir soft avec deux petits sujets que j'ai vus sur la toile. Et là, je me suis dit, est-ce que je parle de ça dans mon intro?
En tout cas, à date, c'est soft pas mal.
Ou si je laisse aller puis que je fais d'autres choses. Puis effectivement, j'ai fait d'autres choses parce que c'était un peu trop mauvais. Il y a un gars, pour de vrai, qui s'appelle genre Rob quelque chose, qui court présentement à travers les États-Unis, d'est en ouest, habillé comme Forrest Gump, qui a parcouru déjà 22 000 kilomètres.
Wow.
Il a traversé les États-Unis deux ou trois fois depuis 2 ans.
Ok, parce que 22 000 kilomètres, c'est la moitié de la Terre.
Et il veut se rendre à 33 000.
Ok.
Il pense le réussir dans les 3 prochaines années. Il est habillé comme lui, grand barbe, casquette rouge, le petit jacket bleu à noir, Adidas. Il est vraiment habillé comme lui. Il est un peu plus maigre, là, je te dirais.
Ben, ça doit après 24 000 km de jogging.
depuis rester grand, l'indice de masse corporelle, là, il doit être à 1. Il n'y a plus rien.
T'as moins 1.
Ouais, c'est à moins 1.
Et d'après moi, son pourcentage de gras sur le corps, là, il doit être à moins 0,7 dièse. Regarde. J'ai vu ça. J'ai fait, OK, toi, t'as tellement aimé le film. Je te parle pas d'un coup de cœur. J'ai écouté le Black Panther, puis j'ai vraiment aimé le film. Oui. Je vais m'acheter le DVD, puis je vais le réécouter. T'sais, je suis un fan de Marvel. Je vais réécouter le DVD. Ça, c'est un fan.
Ouais.
Un fan fini, j'ai acheté le DVD, j'ai acheté le Blu-ray, puis j'ai acheté le Special Edition.
Puis le T-shirt.
Puis j'ai été voir le film à New York, puis j'ai serré la main de l'acteur.
Ouais.
Ça, c'est un fan fini.
Ouais. Ouais.
Moi, je me suis construit un suit de Black Panther, puis la nuit, un char pour aller griffer du monde. Ça, c'est peut-être un peu trop. Hein?
Alors, comme lui, là.
Un peu.
Comme
lui,
Bob. Là,
lui, Bob, ou Rob, là, ou en tout cas, Rob. Lui, là. Il court comme Forrest Gump. À travers les États-Unis.
Avec la barbe, là.
Avec la barbe,
hey,
toujours.
Au Nouveau-Mexique, ça doit être assez chaud, hein.
Ah,
c'est quand il est là,
ouais,
à Guanuta, je sais pas, là.
Regarde,
c'est ça.
J'en tiens juste le bout quand il mange le... Ah, tu viens de marcher dans la merde, hein? J'adore la passe en français, elle est vraiment excellente. Et mon deuxième sujet de fin, les gars, parce que j'ai dit, ah, je vais aller faire un tour sur la toile.
Oui, la toile.
Me ramasser quelques infos, pubs,
oui.
Ou quelque chose.
Vraiment un Spider-Man. Toi.
Pour le podcast.
Ouais.
Et les 6 premières nouvelles étaient, je cite, Photoshop. Du mariage de Harry et Meghan. Les chapeaux les plus extraordinaires du mariage de Harry et Meghan. Les robes les plus voluptueuses du mariage de Harry et Meghan.
Oui.
Les invités les plus saugrenus du mariage de Harry et Meghan.
Oui.
Et je m'excuse, mais vraiment, vraiment la meilleure. Les plus belles faces de la reine Élisabeth II
dans
le mariage de William, ou en tout cas lui,
Harry
et Meghan.
La photo,
alors, là. Il y a vraiment un article qui se consacre à toutes les faces que deux Élisabeth de son prénom, bien sûr, a fait durant le mariage.
Oh, pauvre madame.
Tu sais, la photo, là, que, son, que son chapeau, là, c'est des hors-d'œuvre, là. Avec du genre.
Ah non, ça, c'est Camélia, ça.
C'est
la femme au prince Charles.
J'ai pensé. Moi, ça, quand j'ai vu ça, c'est-tu à quoi j'ai pensé? J'ai pensé à Détestable, moi, Grou,
oui,
avec le chapeau de nachos et la sauce guacamole.
Ah, mais qu'est-ce que j'ai posté?
Ah oui, c'est
qu'est-ce
bon,
que j'ai posté sur la page Maillé Poton?
Ah, oui.
La face qu'elle fait quand elle regarde Meghan,
ah,
qu'elle se dit, OK, comment m'en débarrasser? Mais là, l'idée du d'accident d'auto dans un tunnel.
C'est déjà fait.
C'est déjà fait. Ah, ça valait 1000$, mon gars, je te jure. J'ai vu les articles et j'ai fait, OK, aujourd'hui, là. On est vraiment ailleurs. Et je trouve ça plate qu'il n'y ait pas eu à côté de ces 6 premiers articles de la toile-là. T'aimes ça quand je dis
la toile? La toile, hein? Moi, je suis
j'adore la
en
toile.
En costume de Spider-Man,
ah,
puis tu parcours une toile.
Parlant de toile, là, l'artiste qui avait fait pour Infoman, là, plein de portraits de gens très, très influents et connus de ce monde en train de chier. Là.
Oui, c'est
bon,
vrai.
Ben, j'ai celui de la reine en tête présentement.
OK, ouais. Hein?
Hey, quand je suis allé
la balle,
je me suis dit, mon Dieu, il n'y en a pas un à côté qui n'aurait pas pu écrire genre voici l'article du je me calisse solidement du mariage de Harry et Meghan. Et voilà pourquoi je vous partage cet article. Puis l'article, c'est vraiment un point. L'article, c'est il n'y en a pas d'article, il y a le titre.
Les postes de nouvelles en continu, là, cette journée-là, ils ont juste parlé de ça. On avait
écoute,
le
cœur.
On s'en colle.
Ça a l'air que le voyage de noces se fait à Pointe-Calumet.
À Pointe-Calumet?
Moi, j'avais entendu qu'il prenait un digestif à Rawdon, mais en tout cas, ça serait vérifié.
Bon, on passe par Ville-Marie, là. Venez voir Harry et Meghan.
Ça va finir à Brossard.
D'après moi, ils vont aller prendre une grosse broue, puis... ils vont aller fêter ça dans un pub, puis l'autre, il va être habillé encore en armée, puis elle va avoir sa vieille robe, tout scrap, sale, beige, parce qu'elle va avoir été traînée.
Tout ça à Matagami.
Ah!
La même place que où a commencé.
Moi, je dis qu'ils s'en vont danseuses dans le mur à Fermont.
Hey, c'est bon, ça.
Rise up this morning.